la Révolution française, c'est une histoire de jeunes gens, de faire des jeunes hommes. Parce que Robespierre, quand on a été, il a 36 ans, pensait que Danton avait 35 ans, que Camille Desmoulins avait 33 ans, et que Saint-Just avait 27 ans lorsqu'ils sont morts. Alors regardons notre particulier qui nous intéresse nous, c'est-à-dire Robespierre, plein de choses à dire sur son enfance et son adolescence. Sinon que, il n'a pas eu d'affection, parce que pour le cas de lui, il avait 6 ans quand sa mère est morte. 2 ans plus tard, son père disparaît, c'est un avocat à Arras. Vraiment, il disparaît, on ne sait pas où il est. Il va reparaître 2 ans plus tard, un instant, c'est quelques semaines, repartir, et il mourra en 1777, à Munich, où il avait ouvert une petite école de français. Alors, lui, Robespierre, qui a un frère et une sœur, sont pris en charge par les grands-parents maternels, et ses grands-parents maternels qui ne veulent pas s'embarrasser de lui, et le placent le plus vite possible grâce à des bourses ecclésiastiques, d'abord comme interne au lycée de la race, au collège de la race, et ensuite au lycée de l'Ile-Grand, où il va travailler plus de 10 ans. Il est très bon élève, il est destiné, et voilà qu'il va sortir de Arras, prendre la suite, entre guillemets, de son père, qui avait donc disparu depuis bien des années, et il va être jeune avocat d'Arras, où il se débrouille pas mal. Ce n'est pas un personnage qui attire sur lui l'attention, il est bien élevé, c'est danser, il écrit des madrigaux comme tout le monde, il fait même partie d'une société littéraire qu'on appelait les Rosati, et qui, au petit pied, serait un peu comparable aux Rosari d'aujourd'hui. Mais, en 1989, alors qu'il a 31 ans, voilà les états généraux, il va se présenter aux états généraux, et en particulier, il va lancer un tract que je tiens à lire, du moins une minute, parce que personne ne parlait comme lui. Voici ce qu'il ose écrire. La plus grande partie de nos contemporains est réduite par un état d'indigence et d'avilissement au point de ne plus pouvoir penser à autre chose qu'au moyen immédiat de survivre. Incapables qu'ils sont de réfléchir aux causes de leur misère et aux droits que la nature leur a donnés. Je ne sais pas si vous avez remarqué les mots, mais si nous employons un vocabulaire contemporain, disons qu'il y a là de la dynamite. Pourquoi de la dynamite? Parce que, face au problème de la misère, Robespierre ne dit pas que vous voulez c'est la fatalité, il faut la tromper. Mais il dit carrément qu'il faut que les gens réfléchissent aux causes de leur misère et se rendent compte qu'ils sont des exploités. C'est pourquoi j'ai employé ce mot violent, mais exact, je crois, de dynamite. C'est un homme révolutionnaire. C'est un homme qui, comme on dirait aujourd'hui, avec un mot qui ne satisfait pas tout à fait, il essaye de conscientiser la méconscience au prolétariat. Alors regardons bien ce la façon dont Robespierre à la Constituante, puisque c'est les généraux qui vont devenir une Constituante. Il ne se fait pas remarquer, il n'est pas là au moment de la prise de la Bastille, simplement pendant la journée du 5 octobre, vous rappelez peut-être que les femmes parties de Paris se dirigent vers Versailles parce qu'ils veulent prendre le roi et le ramener de force à Paris. Il va insister auprès de ses collègues de l'Assemblée Constituante, dite Constituante, pour qu'il reçoive Maillard, comme dit Paris aujourd'hui. Maillard, c'est un bonhomme qui s'est fait remarquer très activement dans la prise de la Bastille, il y a eu 97 tués quand même. Et puis, ce Maillard était entouré d'une légende noire, il prétendait être très dangereux. Alors la Constituante n'avait pas envie de recevoir à sa barre ce personnage, et le tout jeune Robespierre, qui ne serait pas remarqué jusqu'à l'heure, lui dit, il faut écouter ce qu'a nous dit Maillard, et il le fait recevoir. Bon. Maintenant, je vais regarder ensemble la signification réelle de cette révolution. Et là, je suis obligé, une fois de plus, de prendre position contre Michelet, qui est un homme que je respecte, et je trouve en effet que c'est un grand historien, mais du point de vue historique, il est vraiment très contestable. Pensez donc que Michelet va oser nous affirmer ceci. Il faut savoir à quel point les idées d'intérêt sont restées là, la révolution secondaire. Oui, la révolution française fut désintéressée, ceux-là sont côté soumis. C'est très bien dit, mais ça ne correspond absolument pas à la vérité. Comment pas l'histoire d'intérêt? Mais c'est avant tout une histoire d'argent. Étant donné que l'État est en faillite, qu'il est au bord de la banqueroute, et que les rentiers de l'État sont affolés. Il faudra trouver un moyen de faire face à la banqueroute. Deuxièmement, rendons-nous bien compte de ceci. Qu'il y avait une classe nouvelle qui a fait son apparition au cours du XVIIIe siècle. Il y avait l'ancienne aristocratie, qui avait la richesse, si vous voulez, immobilière, c'est-à-dire les châteaux héréditaires. Et puis, il y avait une richesse, qu'on appellera la richesse mobilière, qui était faite des grandes affaires. Ces grandes affaires se développaient extraordinairement au XVIIIe siècle, à savoir les grands commerces, déjà une certaine grande industrie, déjà des groupements de prolétaires, aussi des assurances, on oublie, il y avait des assurances sur la vie qui marchaient très bien. Cette nouvelle classe, qui est une bourgeoisie, entend ne pas laisser les rênes de l'État entre les mains exclusivement de la noblesse. Alors nous pourrions dire, c'est un mot que j'ai risqué, mais que je répète parce que je le crois vrai, nous assistons à une bagarre de Nancy, à une rixe de possédants entre nobles et grands bourgeois, bourgeoisie, sur le dos de ce que Victor Hugo appellera la cariatide. La cariatide, c'est la petite foule, le petit peuple. J'ai une réflexion de Voltaire, que j'ai envie de citer maintenant, mais je vais l'apprendre plus tard. Voltaire, dans l'Essai sur les mœurs, avait dit, une cité bien organisée est celle où le petit nombre fait travailler, vous entendez bien, fait travailler le grand nombre, et nourrit par lui, et nourrit par lui, et le gouverne. Cette morale d'entretenu, c'est exactement la morale de ceux qui sont les grands conducteurs de cette révolution, de faire progresser, ne pas toucher à la carrière, de faire quelque chose de bien obéissant, alors que Robespierre, présumément, va être le protestataire. Pendant la Constituante, ce jeune député va uniquement et presque ou constamment et presque uniquement s'occuper du triple scandale que lui fait éprouver la façon dont on se conduit à l'égard de la Déclaration des droits de l'homme. Aujourd'hui encore, on le dit, la Déclaration des droits de l'homme, 24 août 1789, c'est extraordinaire, personne n'avait songé à ça, si, si, les Américains l'avaient fait. Notre Déclaration des droits de l'homme est en partie copiée sur la Déclaration des Américains en 1776. Mais dans cette Déclaration des droits de l'homme, il y avait un article, politique, je crois même, cet article-là, tout homme, tous les hommes, naissent et demeurent égaux et libres, égaux en droit et libres. Alors, Robespierre s'aperçoit qu'il y a un démenti, un triple démenti et outrageant à l'égard de cet engagement. Je rappelle, il y a tout homme, tous les hommes, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nous, bon. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait des Noirs pour ça? Il y avait des Noirs dans nos colonies étaient plus grand nombre, hein, plus en grand nombre, c'était les Antilles. Mais là, il y avait un lobby colonial très puissant qui voulait surtout qu'on ne touchât pas à l'esclavage là-bas, et qu'on laissât esclaves des gens qui nourrissaient jusqu'à nous le lobby colonial. Qui enfin, mais, par exemple la famille Noailles, dans laquelle est entré par mariage un homme comme Lafayette. Il y avait des gens qui en France bénéficiaient considérablement du poids de l'argent de l'esclavage dans les Noirs. Des Noirs. Et là, ça, on n'en parle plus. Il y a une infraction élémentaire à la Déclaration des droits de l'homme. Deuxièmement, sur le droit de vote, c'est Sieyès, quelques-uns appelaient Sieyès, mais je sais qu'ils ont prononcé, que lui-même prononçait Sieyès, un ancien prêtre. C'est Sieyès qui a inventé pour le droit de vote une distinction. Comme dit pour une fois très justement Michelet, il y avait des citoyens, tout le monde était citoyen, mais il y en a d'autres qui étaient moins citoyens que d'autres. C'est en effet Sieyès qui avait dit que pour avoir le droit de vote, il fallait une distinction, ça a été l'actif, puis il ne faisait pas dire le passif. Il disait les actifs et les non-actifs. Quelle est donc la distinction? Comment vous êtes donc? Quel était le critère? Ben, ça va de soi, l'argent. Alors, n'était admis au droit de vote que les gens qui payaient une imposition au moins égale aux 3 à 3 journées de travail, au prix de 3 journées de travail. Ce qui signifie que pour être, comme disait Sieyès, actionnaire de la Maison France, une pratique très contemporaine, il faut avoir de l'argent. Et bien, Robespierre a poussé un grand cri et écrit en particulier ceci, sois riche, à quelque prix que ce soit, ou tu ne feras rien dans la cité. Et puis, troisièmement, le troisième scandale, c'est la garde nationale. Là, il faut que je vous rappelle un peu les faits réels. Le roi a décédé, peu à peu, on veut y circuler, et puis le 12 juillet, poussé par sa femme du reste, il avait décidé de chasser Necker, qui représentait les idées, et de constituer un gouvernement, comme on dirait aujourd'hui, de droite, avec le baron de Breteuil. Necker est renvoyé, ça fait du tumulte dans Paris, le roi lance un régiment allemand, le royal allemand, qui va faire quelques musculades sur les Champs-Élysées, enfin c'est pas grave, néanmoins, on voit que le roi est décidé maintenant à mettre un frein à la révolution. Alors, c'était déjà constitué une municipalité avec ses affairistes, avec M. Bailly, par exemple, maire de Paris, c'est un personnage considérable, alors Lafayette aussi, cette municipalité dit, c'est pas possible, il faut faire reculer le roi, on ne peut le faire reculer qu'en vivant peur. Alors, c'est la municipalité de Paris qui va distribuer, qui va distribuer des armes aux petits gens. Ces petits gens ont fini par refuser le droit de vote. On leur demande d'aller faire turbe dans la Bastille, il y a 97 tués, hein, 97 tués, qui sont tous des petits gens. Le roi va être effrayé, le roi va reculer, il va pouvoir reprendre la police. Mais, on est tellement inquiet dans cette bourgeoisie d'avoir fait appel au petit peuple en disant, attention, s'ils gardent leur fusil, c'est un jeu pour nous. Alors, à partir du 15 juillet, le lendemain de la prise de la Bastille, la municipalité annonce qu'elle donnera 40 sous à quiconque rapportera son fusil. Attention, qu'est-ce qu'ils allaient aller à ce moment-là? Ben, les jours où il travaillait, vous savez que c'est pas tous les jours, parce qu'il y avait non seulement dimanche, mais des quantités de frais de chômage, il gagnait environ 20 sols, quoi, disons 20 sous par jour. Une lire ou 20 sous, parce qu'on disait 100 000. Eh bien, donnez quelqu'un qui rapporte leur fusil 200, 40 sous, c'est intéressant, dans les fusils rentrent abondamment. Mais on se dit, même, c'est très ennuyeux que ces gens aient pris l'habitude d'avoir un fusil, bien entendu, ils l'ont gentiment ramené, mais enfin, on sait qu'ils sont capables d'être en jeu avec un fusil. Alors, on avait créé d'abord ce qu'on appelait une milice bourgeoise, et puis le nom paraîtrait un peu trop nu. On appellera ça la garde nationale, et cette première garde nationale qui est faite pour intimider le pouvoir, pour lutter contre l'armée du roi, l'armée par exemple, également, pour avoir une milice plébéienne, une milice du peuple, très rapidement. Cette milice, sous l'apparence de la garde nationale, va exclure tous ceux qui n'ont pas le droit de vote. On ne peut pas le faire brutalement, parce que je ne suis pas obligé de l'avoir commencé de manière oblique. On va commencer par dire, pour être de la garde nationale, il faut payer son uniforme. L'uniforme coûte 80 livres, 80 francs, pour les gens qui gagnent quand ils travaillent 1 franc par jour, vous rendez bien compte que c'est une exclusion automatique. Par le moyen d'uniforme, on s'arrange pour que disparaisse cette présence des indésirables dans la garde nationale. Le 14 juillet 1990, ça avait été la fédération. Il y a encore un thème banal là-dessus qui dit que la fédération était un consensus national, selon l'expression contemporaine, que c'était l'unité française, que dans cette grande fête du Champ de Mars, tout le monde se sentait épris d'un sentiment, que le roi était très gentil, que le roi vient prendre la parole, prêt de serment et dit qu'il est tout à fait prêt à servir les nouvelles. C'est pas vrai. En réalité, qu'est-ce qui s'est donc passé ce 14 juillet, que l'on appelle fête de l'unité nationale? Ce sont des délégations de la garde nationale de province, parce que dans toute une ville de province, c'était organisé, à l'imitation de Paris, une garde nationale bourgeoise. C'est des délégations, ces gardes nationales qui viennent sur les champs de Mars, et qui montrent à la population parisienne, c'est nous qui avons les fusils, c'est nous qui avons les canons. Et là encore, Robespierre avait dit la vérité, parce que c'est un homme lucide, et il avait dit, tout citoyen armé est maître de celui qui ne l'est pas. Vous voulez donc diviser la nation en deux classes, dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. Là, c'est exactement ça. Si l'on se reporte à ce qui se passe presque un an après, le 17 juillet 91, sur ce même emplacement du Champ de Mars. Ben, qu'est-ce qui arrive donc? Ben, entre-temps, c'est produit un événement considérable que vous connaissez très bien, c'est la fuite du roi le 21 juin 1991. Le roi avait menti, et il avouera dans sa correspondance, tout à fait autrement, Marie-Antoinette dit aussi, ces gens-là qui sont des gueux, les gens de la réforme, on ne peut pas s'opposer à eux directement, alors on va faire croire qu'on leur obéit, mais nous allons aller chercher des troupes. Alors l'idée du roi, c'est pas du tout d'amener l'ennemi, l'extérieur, pas du tout. C'est d'amener des troupes fidèles, en particulier des mercenaires. Vous savez bien que dans l'ancien régime, il y avait à côté des troupes françaises, des quantités de troupes qui ne parlaient pas français, qui étaient donc utilisables pour n'importe quoi, comme ça les robots, si vous voulez, la française légion étrangère. Alors le roi va chercher à monédier sur sol français des régiments étrangers, commandés par le général Boulay, et avec ce général, il a l'intention de revenir sur Paris, armé du. Et entouré d'une puissante armée pour contraindre les gens à revenir à 1888, pour rétablir son autorité. Ça veut aussi que ça a échoué, puisqu'il a été arrêté à Varennes. Et voilà que les meneurs du jeu sont extrêmement ennuyés de voir que le roi s'est mis dans un mauvais cas. Il a dû rester écrit avec beaucoup de loyauté, une lettre au président de l'Assemblée, ce roi. Il a dit, écoutez, moi je suis plus libre, c'est vrai, je suis comme une sorte de prisonnier, je veux rétablir l'ordre, par conséquent, je m'en vais. Mais justement, je viens de vous dire, les monarchies sont très ennuyées parce que la monarchie, pour eux, représente quelque chose d'essentiel, une espèce de palladium, de sauvegarde, de garantie plus ou moins mythique de la propriété. Et la propriété, c'est la grande question. Une dame comme Madame de Stade, vous savez, qui est la fille de Necker, elle n'a pas filé dans la poche. Madame Necker, Mademoiselle Necker dira en 1816, le drame de 89, c'est que, je sais pas faire, vous savez, les gens de la classe ouvrière s'imaginèrent que le joug de la disparition des fortunes allait cesser de peser sur eux. Alors ces petits gens, hein, que par bonheur on ne vote pas et qu'ils ne votent pas et qu'on n'admet pas la guerre nationale, il faut les surveiller en permanence. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec vous? Verrez-vous que la majorité de la constituante va s'engager dans un mensonge incroyable, suggéré par Barnave. Barnave est un homme qui est de la clientèle des terriers, des industriels de Grenoble, de l'Élysée, et surtout par Joseph Lafayette. On va affirmer, vous m'entendez bien, on va affirmer que le roi a été enlevé. C'est colossal comme affirmation, puisque le roi a échoué un test, on dit je me suis, non, 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 c'est pas sa faute, il a été enlevé par Boulay. Et pour protéger ce roi qui est très menacé, évidemment, parce que les Parisiens n'aiment pas Philatin, on va déclarer sa personne inviolable. Alors c'est là où Robespierre, tout ça, c'est un peu rude. Il dit, enfin, c'est extraordinaire ce que vous venez de faire. Je crois que vous venez de décider qu'il y a un Français qui a un aucun comme serait entretenu. Il dit encore, il renonce les méchants, j'ai du mal à comprendre. Vous ne feriez, vous, représentant du peuple, vous calomnier ainsi vous-même. Vous n'avez pas pu décider qu'il y a en France un homme au-dessus des lois. Mais si, on a décidé qu'il soit au-dessus des lois, et par conséquent, on fait savoir aux gens qui protestent, aux passifs, quoi, qui voudraient se mêler de ce qui ne les regarde pas, et qui ont demandé qu'on vienne signer un manifeste sur le champ de Mars. Les feuilles sont préparées, il y a de l'encre, il y a des feuilles de papier, il y a de quoi écrire, pour demander la déchéance du roi. C'est extrêmement grave, hein. Ce sont des gens qui sont exclus de la vie nationale, puisqu'on a dit, vous ne votez pas, vous êtes des passifs, vous ne comptez pas. Vous voyez que ces passifs se mettent à déclarer, à réclamer la déchéance du roi. Alors on va leur tirer dessus. Et brusquement, la municipalité de Paris, c'est-à-dire Bailly et Lafayette, ont décidé d'arborer le drapeau rouge à la Zébulie. Celui aujourd'hui, le drapeau rouge en tant qu'évolution. Il faut bien savoir que le drapeau rouge, autrefois, représentait la loi martiale. Et lorsque la Martine, le 25 février 1988, a refusé le drapeau rouge, il leur dira en disant le drapeau rouge n'a jamais fait que le tour du champ de Mars, salut, je suis le drapeau tricolore, etc., fait le tour de l'Europe, salut, salut. Attention, le drapeau rouge en 1881, ça signifie loi martiale, c'est ce qu'il veut dire, sommation, et si les gens ne l'obéissent pas à la sommation, on leur tirera dessus. Et bien, il y avait une foule, c'était un dimanche, le 17 juillet, il y avait une foule, des petits gens, des pauvres gens, qui gravissaient, il y avait les grands escaliers, au-dessus duquel il y avait l'hôtel, l'hôtel du champ de Mars, l'hôtel de la Fédération, et les gens fuyaient depuis le début du matin. Et puis tout d'un coup, on leur annonce, attention, il y a la loi sur la vertu. Et bien ça, on ne sait pas exactement ce qui s'est produit, sans doute on ne saura jamais. Il y a eu un coup de feu. Il y a eu un coup de feu. Tiré par qui, on ne sait pas. Puis il répond que la garde nationale, qui est la menace, va répondre par un fourroulant, hein, fourroulant sur le peuple. Le gouvernement dirait, il est tous tués, parce que c'est évidemment un mensonge. Robespierre, qui est fait jacques on dirait, il est tous tués. Non, c'est pas vrai. Il est beaucoup de tués. Et l'évaluation la plus modeste, une centaine de tués. Là, vous voyez, la garde nationale a tiré sur le peuple. Ben, c'est comme ça. Robespierre va être obligé de baisser la tête, parce qu'on ne l'écoute pas. C'est entendu, le roi est inviolable. Le roi va prononcer un serment menteur, un serment qu'il décide à ne pas tenir, le 14 septembre 91, en disant, jamais la Constitution, je serai respectueux de cette Constitution. Robespierre est battu, il a été battu sur les trois terrains, il n'a ni obtenu la libération des esclaves, il n'a pas obtenu que l'on distingue les électeurs selon leur fortune, il n'a pas obtenu que la garde nationale soit ouverte à tout le monde, il s'est fait haïr, j'ai lu de près, j'ai demandé à lire, enfin, toutes les séances de l'Assemblée nationale. Vous ne savez pas, il a parlé plus de 100 fois. Vous ne savez pas le nombre de fois où on l'empêche de parler. Je vous en cite une qui m'avait encore joué. Le journal de Paris, le journal plutôt neuf, c'était comme ça, le journal de Paris, le 22 octobre 89, dit, monsieur Robespierre a demandé la parole. Après, j'ai cité par cœur, je le sais. On s'est rapidement aperçu qu'il voulait encore parler au profit des pauvres et on lui a coupé la parole. Alors, il faut que vous rendiez bien compte que cet homme qui s'est fait haïr, s'est fait détester, on a répondu autour de lui, sur lui, le mensonge qu'il était de nouveau Damien. Damien, ça ne vous dit rien, c'est en 1757, Robespierre nous a parlé, puisque c'est l'année 1958, Damien avait lancé un coup de calife au roi, c'est vrai, le roi a été égratigné, résultat, il a été écartelé. Alors, la presse de droite, on ne disait pas droite et gauche, on dit le côté droit ou le côté gauche. Et bien, la presse du côté droit dit, c'est pas étonnant qu'on ait un prince qui dit, ce député populaire, c'est autre que le neveu de Damien. Complètement mensonge. Mais il est vrai que dans les tribunes, le peuple devait venir, une grande popularité l'entoure. Et le jour où il se dissout de ces deux constituants, c'est le 30 septembre, oui, c'est ça, le 30 septembre 1971, on est acclamé par une foule qui veut même le porter en triomphe et il ne veut pas qu'on en parle. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben, c'est l'Assemblée législative prévue par la Constitution. Attention, l'Assemblée législative, je ne comprends pas comment espérer puis y mettre le moindre espoir, étant donné que c'est une chambre sans critères. Ne peuvent être députés que ne peuvent être représentants du peuple, non seulement que les gens qui sont élus par les précédents, mais qui eux-mêmes seront des riches. Étant donné que s'il faut payer l'équivalent de 3 journées de travail pour avoir le droit de vote, il faut payer l'équivalent, si on va dire, de 50 journées de travail pour être éligible. Parce que c'est qu'il y a en face de lui une chambre de notables, de messieurs considérables, de gens assis. Et ça doit faire que presque tout de suite, les gens qui vont être les meneurs du jeu, c'est les gens qui vont s'imposer. C'est un groupe que l'on appellera Girondin. On appelle Girondin un peu par abus, puisqu'il n'y a que trois qui sont les vrais députés de la Gironde, c'est Vernon, c'est Gadet, c'est Jean Sommet. Mais ce groupe prend autour de ces trois des ralliés qu'on appellera également des Girondins quand ils ne sont pas de la Gironde. D'ailleurs, qui donc sur Roland, qu'on en appelle Pierre, qui a pour époux Manon Roland, qui est une femme riche, qui a un très beau salon à Paris, rival du salon de Madame de Sac. Il y aura Condorcet, l'ancien encyclopédiste, qui est un ami de Voltaire, un personnel de Voltaire, qui fait un livre sur Voltaire, et qui a dit que Jacques Rousseau était un monstre parce qu'il avait essayé de ressusciter l'Empire des Ténèbres. Il y a aussi Brissot, qui est un journaliste, qui dirige un journal qui s'appelle Le Patriote, qui est très lu. Puis il y a Gorsa, puis il y a Carat. Ce sont des gens nombreux. Je vais donner l'avis de deux personnages importants sur les Girondins. L'un est Lamartine et l'autre est Jaurès. Lamartine, que j'ai étudié très près parce que je suis son compatriote, me connaît comme lui, il est arrivé en grande histoire. En 1843, il a commencé à écrire un livre qu'il voulait appeler sur les Girondins, dans l'idée de mettre en vedette les Girondins pour les opposer aux Montagnards. Dans sa pensée, au départ, les Montagnards sont des gens qui vont faire la terreur, tandis que les Girondins sont des purs et durs, mais pas des sons sur les mains. Il a travaillé beaucoup mieux comme imaginé. J'ai un peu regardé ses instruments de travail, ses papiers. La Martine a beaucoup travaillé et il n'a publié que 47 son livre. Et la figurez-vous, entre 43 et 47, il avait changé d'avis. Et que son livre va être en l'honneur des Montagnards et en particulier dans l'honneur de l'Ambesquet. Et il dit des Girondins. C'est la Martine qui parle. Les Girondins étaient des gens parfaitement résolus à laisser substituer dans le fond de la société des iniquités, de faire sorte que la nation, au lieu d'avoir un seul tyran, on est maintenant plusieurs milliers, c'est-à-dire les riches. Ce qui recoupait l'opinion de Robespierre, Robespierre avait dit on a détruit l'aristocratie nobiliaire, on l'a remplacée par l'aristocratie de la richesse. Voici la vie de Lamartine. Et maintenant, plus brièvement, la vie de Jean Jaurès dans son histoire socialiste de la Révolution française qui a commencé à paraître en 1902 où il dit les Girondins, c'était, grosso modo, c'était une oligarchie de beaux parleurs et de bourgeois arrogants. Eh bien, ces gens, effectivement, sont très excités contre Robespierre, qui leur paraît très dangereux. L'Assemblée s'est réunie presque dès le lendemain de la réunion d'Assemblée. Robespierre est visé parce qu'il prend position d'une manière qui déplaît beaucoup aux Girondins sur la question qui devient imminente et capitale, la question de la guerre. Pour la législative, nous sommes dans l'histoire législative, qui a été élue pour 2 ans, mais qui ne durera même pas 1 an, l'essentiel, c'est la guerre. Pourquoi ? Ben, si nous reportons à ce cher Michelet qui avait l'habitude de l'emphase, il faut croire que vraiment cette guerre a été extraordinaire. Guerre sublime, c'est la deuxième fois qu'il en place, monsieur, vous vous rappelez, le côté sublime de la révolution pour Michelet, c'est qu'elle était désintéressée, ce qui n'est pas vrai. Alors maintenant, guerre sublime, guerre pacifique, si vous voulez dire, pour fonder la paix éternelle. Oh, le grand cœur de la France, quelle tendresse pour le monde, quelle ardeur de sacrifice, et comme tous les biens de la terre pesaient peu en ce moment, et c'est du délire. Étant donné que c'est encore une question d'argent. Quelle question d'argent ? Eh bien, la banqueroute dont je vais parler, comment s'en est-il censuré ? Plus question de banqueroute depuis 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'on avait saisi le bien d'autrui. Bien d'autrui, c'est le bien de l'Église. Et en somme, moi qui suis catholique, je trouve ça parfaitement légitime. L'Église avait des biens monumentaux et pour les chrétiens, ça n'était pas indiqué. Alors, on met la main sur ces biens du clergé, c'est de la Talleyrand, évêque d'Autun, qui le premier a dit ouais, prenez les biens de l'Église. Alors avec ces biens qui étaient estimés à environ 3 milliards, vous m'entendez, après cette époque, c'était énorme, on allait pouvoir s'en tirer. On ne pouvait pas acheter sur le marché totalement, il est dans ces biens de l'Église, alors vous savez ce qu'on avait fait ? On les avait définis, on les appelait biens nationaux, et ils sont vendus. Et c'est la vente des biens nationaux qui va éviter la banqueroute. Mais s'il faut que vous sachiez que l'on ne sait pas acheter, c'est pour donner des choses tout à fait contemporaines, mais qui va bien. C'est la magouille, l'épouvantable magouille qui s'est passée autour des biens nationaux. Ça a été un gâchis, vous savez, et un pillage. Ils jouaient d'autre bien avec la municipalité qui vendait les biens nationaux pour les acheter pour rien, pour un dessous de pain. Même, on avait le droit de ne payer que par 12e, et comme vous allez voir que la finale, je vais vous parler, va se déprécier, une fois qu'on a payé en argent, en bon argent, on va payer les années suivantes avec cet argent qui ne vaut plus rien. C'était ce scandale épouvantable des biens nationaux à rapporter à beaucoup de gens, en particulier à un nommé Cambon, vous allez voir plusieurs fois, Cambon qui se fera donner les finances. Les Cambon sont des gens très importants dans le Languedoc. Ils font du tissu, ils sont à la fois des fabricants et des négociants. Ils étaient déjà riches. Mais c'est M. Jean Valter qui a fait l'édition savante de Gilles Michelet dans la pléiade. Jean Valter qui dit, il faut savoir à quel point des gens comme les Cambon, c'était prodigieux, vous entendez, prodigieux, enrichi avec les biens nationaux. Alors, on lance du valimonnaie, comme vous savez, ça s'appelle de l'assignat, et l'assignat est garanti par le bien des villes. Donc voilà maintenant, c'est à l'automne 91, hein, c'est à l'échelle du début. Savez-vous qu'il y a déjà pour environ 2 milliards d'assignats en circulation. Et comme les délégués sont dévalués à 3 milliards, si on continue à tirer des assignats, c'est-à-dire des monnaies de la monnaie papier comme on le fait, très rapidement, l'assignat ne vaudra rien parce que c'est de nouveau la banqueroute. Alors comment faire pour éviter cette banqueroute? Eh bien, le ministre de la Guerre, Narbonne, qui a été pris le 7 décembre, je crois, et c'est le 14 décembre, il va parler à la tribune de l'Assemblée législative, et ce Narbonne, qui est un imbécile, va dire le gaz, va faire un aveu extraordinaire, et que voici que, si l'histoire était ce qu'elle devrait être, si elle n'était pas l'histoire de bonne compagnie, on écrivait ça en lettres rouges dans les niveaux scolaires. Le 14 décembre, Narbonne, ministre de la Guerre, dit, la guerre est indispensable, le sort des créanciers de l'État au dépôt. Et donc, je ne peux pas être plus net, hein. L'État va de nouveau s'agir qu'on est sûr, on ne sait pas la guerre. Ça veut dire quoi? Parce que tout le monde va de nouveau le bien aussi. C'est la bourgeoisie, ça fait des révolutions, elle ne veut pas payer. Elle a fait payer les gilets, c'est qu'il n'y a rien à être rapide du côté des clés. Mais par bonheur, il y a le voisin, il y a la Belgique, il y a la Rhénanie, tout ça appartient à l'empereur d'Autriche. Alors, si on se jette sur la Belgique et la Rhénanie, ben, on va prendre le bien des autrui et on s'en tirera. C'est ça, la vérité. Le roi est complètement d'accord. Et Robespierre se fait mal voir des Girondins parce que ces Girondins sont passionnés par cette guerre qu'ils annoncent en effet, Ismar par exemple, comme la guerre de libération de l'Europe, une générosité, nous sommes les hommes de la liberté de la France, on n'est pas égoïste, on va répondre à l'égalité partout, alors que vous savez ce qu'ils veulent, c'est-à-dire prendre l'argent d'autrui. Et Robespierre va faire toute une série d'interpellations aux Jacobins, car j'ai oublié de vous dire qu'il n'est pas éligible, il va demander que tous les membres de la Constitution ne soient pas éligibles, il ne peut parler qu'avec les Jacobins. Il va faire une série de discours pour dire qu'il ne faut pas faire la guerre. Pourquoi? Premièrement, dit-il, parce qu'il n'y a plus de cadre. Comment voulez-vous faire la guerre avec une armée qui n'a plus de cadre? Et effectivement, c'est vrai. Les officiers sont partis en grand nombre. Les officiers constituent ce groupe des émigrés de Koblenz, qui font du bruit, qui ne sont pas dangereux. Enfin, les cadres ne sont plus là. Deuxièmement, toujours en effet, je parle. Ce qui reste de cadre, dit-il, ce sont des gens qui sont les amis du roi. Et en effet, c'est très vrai, on est obligé de reconnaître aujourd'hui que beaucoup de ces officiers qui étaient restés là, qui n'avaient pas émigré, renseignaient les émigrés. Et lui, Robespierre, il dit, vous avez tout pris la noblesse, mais la noblesse règne toujours sur l'armée. Comment pouvez-vous admettre de laisser l'armée entre les mains des ennemis de la Révolution? Troisième remarque de Robespierre, j'y déploie beaucoup aux Girondins, comment vous allez accepter que l'infanterie soit chargée d'une des principales armées? C'est Narbonne qui en effet décidons que les trois grandes armées françaises seraient respectivement commandées par Rochambeau, qui avait aussi travaillé au soutien des Américains, par le Führer, qui était un vieux reître allemand au service de la France, et par la Bayeux. Et Robespierre dit, mais c'est inconcevable. C'est l'homme qui a tiré sur le peuple. Vous n'allez pas accepter que cet homme est un grand commandement, il peut très bien retourner une partie de son armée contre Paris. Troisièmement, dit-il, c'est une diversion que vous voulez faire. Une diversion. Parce que vous savez bien que les questions essentielles du point de vue de la politique intérieure, c'est qu'il faut donner le droit de vote à tout le monde. Et deuxièmement, qu'il faut permettre aux pauvres gens d'entrer dans la guerre nationale. Et bien, dès qu'on aura fait la guerre, qu'on a déclaré la guerre, on ne parlera plus qu'aux affaires, qu'on ne pensera plus aux affaires nationales, on ne pensera plus aux affaires intérieures, qui pour moi et pour tous les républicains dans cette capitale. Troisièmement, dit-il, ce n'est pas possible ce que M. Condorcet nous avait fait arriver à la tribune. En effet, Condorcet, qui est un Girondin, a dit, si nos soldats vont à l'étranger, comme ils sont les porteurs de la liberté, ils se conduiront avec la même dignité que s'ils allaient en France. Et Robespierre dit, non, ça soyons sérieux. Le premier mouvement d'une nation qui va entrer chez elle, les étrangers, l'arme à la main, c'est de se défendre. Alors qu'on ne nous dise pas que nous avons des missionnaires de la République, personne n'aime les missionnaires armés. Et enfin, dit Robespierre, écoutez, du moins que ce ministre, qui a été choisi par le roi, voulait la guerre, avec le prétexte bien facile des émigrés, qui sont pratiques très dangereux, que ces émigrés sont protégés par l'empereur d'Autriche, ils peuvent faire la guerre à l'empereur d'Autriche. Mais si vos rois ont choisi Narbonne, qui est un bénéfice, c'est que leur roi, il trouve son avantage. Et là encore, malheureusement, je suis obligé de dire que Michelet a dénigré quand il ose bien sûr soigner la cour, mais la guerre lui faisait une peur, virgule, une peur effroyable, vous vous rendez compte. C'est le contraire, la cour ne désirait que la guerre, parce que le roi Louis XVI a changé d'optique. Vous savez que je vous racontais qu'en juin 91, il est allé chercher les armées françaises, à mon avis. Ça avait raté. Alors maintenant, il dit, j'ai la seule chance que j'ai, c'est qu'une invasion se produise, l'invasion de mon beau-frère, puisque sa femme pour frère, ça va faire entre les autres. Et bien, si les autres oppressions entrent, ce sont eux qui me ramèneront au pouvoir et ce sont eux qui rétabliront la politique. Parce que Rabbi Serdis, là, il est engueulé par les Girondins qui disent, je ne suis pas le roi d'être sa guerre, que va répéter Michel, c'est pas vrai. Je vous apporte deux preuves extraordinaires. Je vous disais tout à l'heure, c'était le 14 décembre que Narbonne avait osé, enfin, les gâchis, c'est du gâché énorme, il est indispensable parce que le sort des créanciers de l'État en dépend. Ce même jour, on aurait dit ce même jour, 14 décembre, il s'est écrit une lettre publiée depuis à Breteuil. Breteuil, c'est pour Carmanis, celui qui avait essayé, qui avait tenté de remplacer Necker le 12 juillet. Et à Breteuil, le roi Louis XVI écrit cette chose extraordinaire. L'état physique et moral de l'armée française est tel qu'elle est incapable de soutenir même une demi-campagne. Qu'est-ce qu'on a fait une campagne? Vous savez, c'est 6 mois. On disait à ce moment-là qu'on ne peut faire la guerre que dans les mois d'été ou d'automne. On ne peut pas faire la guerre toute l'année, on ne peut pas la faire en laissant. Et bien, l'état de la France, au point de vue de l'armée, est tel qu'on ne peut pas même soutenir une demi-campagne. Donc, vous entendez bien, vous dites, alors il faut faire la guerre. Il faut vite possible, parce que l'armée française sera détruite et que je préfère ce jeu. Deux, rien de plus. Je ne veux dire, mais elle a son frère qui est sur le trône d'Autriche. Elle écrit à son frère, carrément, comme ça. Le plus grand service que vous pouvez lui rendre, c'est de nous tomber immédiatement sur le corps avec vos plus puissantes troupes. Robespierre dit dans sa vérité, la vérité la plus crue, la plus pénible à entendre, de savoir que le roi est quelqu'un qui prépare déjà ses armées françaises. Il n'est pas entendu. D'autant moins que les Girondins sont très inquiets de ce qui se passe du point de vue social. Il y a une agitation. Le pain est devenu cher. Dans plusieurs départements, il y a des troubles. En particulier, c'est produit le 3 mars, par le loin de Paris, la Étampe, quelque chose de très dramatique. Les journaliers ont fait une protestation en disant, mais nos paiements ne sont pas, les salaires ne sont pas augmentés. Le prix du pain augmente toujours. Le maire se fait Simoneau, un homme qui va s'aborder dans les biens nationaux. Alors nous exigeons, nous demandons à M. Simoneau d'indiquer le maximum du prix du pain. Le pain ne veut pas dépasser tant. Simoneau dit, pas question, il y a une liberté économique avant tout, moi je respecte la liberté économique, je ne veux pas intervenir entre l'offre et la demande. Alors ces gens se sont énervés, on a tiré, et le maire Simoneau a été tué. Alors c'est le martyr de la propriété, c'est un homme admirable. Et puis voilà qu'en effet, à Paris même, on s'inquiète, un Suisse qui s'appelait beaucoup trop les affaires françaises, qui s'appelait Malé Dupont, a publié le 16 mars 92, dans le Mercure de France, un texte où il dit, propriétaire, ouvrez les yeux, vous êtes tout prêt à tomber sous la faux de l'anarchie. Bon, alors ça veut dire qu'il faut faire le vide possible de cette guerre de diversion dont parlait Robespierre. Le roi en est tout à fait d'accord, le roi va appeler au pouvoir les Girondins, il va appeler au pouvoir M. Roland, ministre de l'Intérieur, M. Clavière, qui avait dirigé une grande entreprise d'assurance de la vie à Paris, qui est un riche genevois, son père a gagné beaucoup d'argent à Genève, et puis au point de vue de la guerre, il y aura Servant, ministre de la guerre, et bientôt il y aura un homme et Lebrun qui va prendre la guerre. C'est un ministère jacobin. Et ce ministère jacobin est là pour prendre la responsabilité de la guerre. Parce que l'Autriche, qui n'est pas passionnée par la guerre, ni la Prusse non plus, l'Autriche et la Prusse, qui avaient les yeux fixés sur Catherine II à cause de la Pologne. Vous savez, il y avait déjà un premier partage de la Pologne. Les Autrichiens et les Prussiens ont très peur que Catherine II, de grande dent, veuille avaler un très gros morceau de la Pologne. Alors, c'est les affaires françaises, on verra plus tard. Pour l'instant, ce qui compte, c'est les affaires de la Pologne. C'est pour ça que Marie Antoinette, c'est les affaires contre son frère qui n'intervient pas. Tout ça dit qu'effectivement, il faut faire quelque chose. Alors, les Autrichiens disent, écoute, il faut laisser la responsabilité aux Français. Parce que, et ça c'est une chose importante et que l'histoire officielle ne dit pas, parce que les Autrichiens sont absolument résolus à obtenir, écoutez-moi bien, des dédommagements sur la France. S'ils interviennent, ça leur coûtera bien quelque chose, ils vont perdre des hommes, ils vont dépenser de l'argent pour leurs troupes. Alors ils sont absolument résolus à demander à la France une compensation. Et qu'est-ce que ça fera? Donc si aujourd'hui vous voulez l'Alsace et l'Allemagne, vous voulez ce que Bismarck voudra en 1871. Et le roi dit d'accord. Peu importe, on coupera un petit peu le territoire national, mais moi je serai rétabli dans le droit absolu. Laissez-moi ouvrir là une parenthèse, j'ai étudié de près la guerre de 70-71, et vous savez peut-être que si au début la France précédente avait accepté cette guerre parce que c'était Napoléon III qui la commandait, mais parce que le 4 septembre la République était revenue en France et que c'était devenu faisait horriblement peur à une grande bourgeoisie précédente, on avait vu tous les généraux français, on avait vu toute la France précédente déclarer à Bismarck, faire faveur à Bismarck. Nous sommes absolument d'accord. Prenez Strasbourg, prenez Metz, mais intervenez de telle manière que la République soit abattue et que tous les risques de la propriété soient protégés. Bon, je ferme ma parenthèse et je reviens à cette attitude du roi. Le roi était persuadé qu'effectivement les armées se sont abattues, le 20 avril, vous le suivez, le 20 avril 91, les Girondins déclarent la guerre. En disant c'est la dernière des guerres, hein. Nous connaissons ça en 1914. Et bien, savez-vous que cette guerre qui est déclarée par la France le 20 avril 92, elle va durer 23 ans. Grâce à Bonaparte, qui a transformé Napoléon, le même Napoléon qui en mars 1810 va oser cette affirmation, la guerre est la source de la richesse nationale, vous m'entendez, la guerre est la source de la richesse nationale, parce que pour Napoléon, les guerres c'est des razzias, c'est de prendre l'argent et de l'autre, ça va durer jusqu'à Waterloo. Ça commencera le 20 avril 1992. Et ça commence très mal, comme Robespierre l'avait prévu. Il y a deux désastres, un désastre devant Mons, un autre désastre devant Tournai, devant Mons, deux régiments soi-disant pris de panique et vraisemblablement commandés par des officiers royalistes se débandent, si bien que l'infanterie voit revenir une cavalerie désorganisée, ils se précipitent sur l'île, ils se jettent sur leur général qui s'appelle Guillaume et qui est évidemment un général traître qui était au service du roi et tue ce général. Puis ensuite il y aura l'affaire devant Tournai. Devant Tournai, comme nos troupes sont également battues, le commandement donne ordre d'incendier les derniers faubourgs de Tournai. Alors, soi-disant, comme disaient les Girondins, on va se faire aimer, on va apporter la liberté à la Belgique, sur la rapporter à l'incendie. Robespierre, qui est un bon français, ne va pas applaudir, pas vous débattre, simplement c'est ce que j'avais annoncé, mais il n'en tire pas. Glorium. Il regarde simplement ce qui se passe, et ce qui se passe, c'est que l'agitation grandit à l'intérieur de la France. Il y a les gens qui ont été, c'est le 13 juin. Le 13 juin, les Girondins ont été renvoyés, ils avaient plus de 22, ils avaient déclaré la guerre. Alors, on les remplace par un gouvernement de droite. Ils vont essayer de reprendre le pouvoir par une tentative populaire. C'est le 20 juin, vous vous rappelez peut-être que le 20 juin 1992, la foule, les jeunes troubeaux, vont envahir la tuerie sur le Durkheimat, insulter le roi. Le roi est coincé dans la brasure d'une fenêtre, on lui met un bonnet rouge sur la tête, il l'accepte, on lui demande de boire un verre de vin, il boit au goulot pour montrer à quel point il est favorable au peuple, mais il ne recule pas d'une ligne, il ne rappelle pas les gens là. 20 juin 1992. Et nous arrivons au 10 août 1992 qui va être la chute de la monarchie, par quel moyen? Parce que la reine Marie-Antoinette est exaspérée en voyant que son frère n'attaque pas. Parce qu'elle le supplie de faire au moins un manifeste qui punira les Parisiens. On va faire, de l'autre côté, il y aura le manifeste de Brunswick qui sera signé à Koblenz, dans le champ des Élysées, par le duc de Brunswick, le 25 juillet 92. Et ce manifeste est un effet terrifiant, au moins on l'espère, puisqu'il est dit là-dedans que si les Parisiens se livrent la moindre atteinte à la dignité ou à la sécurité de l'armée royale, de la famille royale, écoutez-moi bien, Paris sera livré à une entière subversion. C'était rien de dire ça. Et surtout, c'était une gaffe, de nouveau, comme celle de Narbonne. Parce que c'était dire à l'opinion publique, nous venons au secours du roi. C'était la preuve de la connivence entre le roi et les envahisseurs. Résultat, comme vous savez, dissoute la population qui se précipite, c'est beaucoup plus sérieusement, et dans d'autres intentions que le 20 juin. Le roi s'est obligé de chercher ce qu'il a assemblé. L'assemblée qui nous ouvre les bras. Ferriot, les Girondins qui lui disaient, magnifique, en fait, magistère, on va vous offrir le palais du Luxembourg, on va vous donner 500 000 francs. C'est pas mal, hein? 500 000 francs de rente. On va changer un précepteur pour le prince impérial. Mais il s'est constitué, vous le savez bien, une commune insurrectionnelle. Commune insurrectionnelle à l'hôtel de ville, dans laquelle se trouve Robespierre, qui jusqu'à l'heure était resté silencieux. Mais qui a conscience du peuple, il a la conscience du peuple, alors il faut partir de la commune. Et le roi, la commune va intervenir pour que le roi ne parle pas du Luxembourg et qu'il soit enfermé en somme pratiquement prisonnier au temple. Et puis il a décidé que ce sera maintenant le suffrage universel et ce sera une convention. Qu'est-ce que ça veut dire convention? Mais c'est un mot emprunté à l'Amérique qui était à ce moment-là dans tous les esprits. Convention, ça veut dire simplement assemblée. Comme on ne veut pas dire constituant tous les roseaux, on pourra dire ça pour Vatican 1 ou Vatican 2, mais pas constituant. Alors on dira, le prochain assemblée s'appellera convention. Ce qui veut dire, ça veut dire assemblée. Mais cette convention sera élue au suffrage universel. Alors ça, c'est très grave, et les Girondins sont très inquiets de ce qu'il va se produire, avec une garde nationale maintenant envahie de passifs, dirigée par un type impossible qui s'appelle Henriot, qui est un ancien commis d'octroi, et qui est un populacier. Qu'est-ce qui va se produire? C'est une très grande inquiétude de penser qu'il y a une convention élue par le suffrage universel. Les élections au suffrage universel. Donc vous savez, il faut savoir ce qui s'est passé, ce n'est pas drôle. Les gens ne sont pas du tout habitués au suffrage universel et il y avait des analphabètes en grand nombre en France. Combien d'électeurs potentiels? Ben, environ 100 millions. Il y avait 25 millions de Français. Les femmes ne votaient pas, il faudra attendre 156 ans, 156 ans, hein, avant que les femmes aient le droit de voter. En fait, tous les mâles pouvaient voter. Et bien sûr, ces 6 millions d'électeurs, c'est pas même 2 millions, vous m'entendez bien, pas même 2 millions, donc un petit tiers qui a voté. Lorsqu'on va nous avons la chiffre précise lorsqu'on va présenter la Constitution, que c'est sur la Dominicaine, en juin, 1 800 000 votants. C'est tout. Je vous répète, ça finit. Et puis là, je voudrais vous indiquer quelque chose qui est très inconnu et qui me frappe beaucoup. C'est la correspondance de Mme George Sand. Je n'ai aucune estime pour Mme Sand, en particulier à cause de ceci. Mme Sand était horriblement inquiète de la commune, la farine, sa notion de les élections vont avoir lieu. Et dans une lettre intime que j'ai retrouvée, qui est publiée, elle dit ceci. Les élections vont avoir lieu, heureusement, les paysans, et les échappins de nord, qui ne savent pas, pour la plupart, lire et écrire, automatiquement votent pour les gens installés, pour les riches. Ce sont les pauvres qui votent pour les riches. Et elle disait, mon département, l'Indre, est heureusement un des plus noirs sur la carte de l'analphabétisme, parce que les analphabètes suivent ceux qui leur paraissent éblouissants, c'est-à-dire les mentis, les possédants, les installés, le notaire, le maire, autrefois le curé. Et bien, c'est exactement ce qui s'est produit au moment de la Convention. La première fois que des gens étaient invités à voter, ils ne votaient pas, et ceux qui votaient, votaient pour le monsieur du coin qui semblait être cultivé. Ça voulait dire le nouveau propriétaire, c'est-à-dire non plus les nobles qui sont partis, sous l'immigration, mais ceux bourgeois qui se sont emparés des biens nationaux et qui sont devenus les nouveaux notables. Si bien que cette Convention nationale, qui a laissé souvenir auprès de certains éblouissants, cette Convention qui paraissait encore si étonnante à Victor Hugo, que je respecte pourtant beaucoup, cette Convention qui lui paraissait comme un Sinaï entouré d'éclairs, vous vous rappelez, dans Les Misérables, il y a ce conventionnel à qui les opinions va demander sa bénédiction, parce qu'un conventionnel, c'est quelqu'un qui a sacrifié tout à la République. C'est pas vrai. De quoi est-elle composée? Elle est composée de nouveaux, de notables, de gens installés, de gens riches, ce sont des possédants. D'autre part, il a été admis que les anciens membres de la Constituante, comme les anciens membres de la législative, peuvent de nouveau être éligibles. Si bien sur les 750 députés, savez-vous qu'il y aura combien de représentants du peuple avec du prolétariat? Deux sur 750. L'un s'appelle Armandville et il est quart d'heure de laine à Reims, l'autre s'appelle Noël Pointe et il est ouvrier à la manufacture d'armes de Saint-Vétien. Deux sur 750. Et alors vous avez plus de 100 de ceux qui appartiennent à la législative, mettons 120 en comptant ceux qui appartiennent aussi à la Constituante. Un homme comme Sieff, qui est un inventeur, vous le savez, de la distinction entre les actifs et les passifs, le voilà des nouveaux députés. Voilà un homme comme Blassi d'Anglas, qui est député et qui est favorable, entièrement favorable, qui le dira le temps venu, au rétablissement du sens. Alors Robespierre, vous voyez bien ce qu'il a produit à Paris, il s'est conduit d'une manière, je suis là pour dire la vérité, de manière très antidémocratique. Il avait horriblement peur que les notables dans Paris même prennent le haut du palais. Alors il n'a pas respecté du tout le suffrage universel, il a déclaré inéligible et même écarté du droit de vote les gens qui avaient fait partie de ce qu'on appelait les feuillants, dont je vais déjà parler parce que c'est peu de chance. Les feuillants, c'était une sécession des Jacobins, c'est des Jacobins de droite. Et bien quiconque a fait partie des feuillants, quiconque a été ouvertement de droite, est exclu du scrutin. En plus, Robespierre de la Crécy, qui est tout de même assez raide, il va obliger les gens à voter publiquement et à voix haute. Par conséquent, ceux qui votent mal peuvent faire que ce soit engueulé par le peuple qui est là. Toujours est-il qu'il y aura très peu de choses, c'était une élection en deux temps, il y aura très peu d'électeurs le jour où il va être élu, il y aura 526 électeurs et il y aura 338 voix, ce qui prouve qu'il n'a pas une majorité, mais toute sa représentation de Paris sera gauche, et même extrême gauche. Parce qu'on procédera chaque fois avec les mêmes moyens d'intimidation pour que la droite ne puisse pas faire entendre. Alors nous avons les 7 ensembles nationales, dans cette convention nationale, nous avons une représentation parisienne, entièrement de gauche, très affirmée à gauche. Et tout le reste, on entend bien, tout le reste, ça sera une représentation de droite et conservatrice. Tout le reste. Y compris les gens-là, qui de nouveau sont là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va voir les gens attaquer tout de suite en Messie. Vous m'entendez? Elle se réunit le 21 septembre, 1592, et le 25 septembre, ils n'ont pas pris de réserve, le 25 septembre, Rebecky, qui est un député girondin de Marseille, attaque personnellement Robespierre en disant « Attention, ce personnage très dangereux, très favorable à l'anarchie ». Le 29 octobre, c'est Louvet, un des grands ténors des girondins, qui va attaquer M. Robespierre en disant « Méfions-nous de lui, c'est quelqu'un qui cherche la dictature et la toute-puissance ». Donc vous savez, il y avait un problème du moins qui s'est réglé pour l'instant, c'est qu'il n'y a plus de danger militaire. J'ai esquivé ça la dernière fois, dans la première partie de mon exposé, mais il faut que je vous en parle maintenant. Les autres prussiens s'étaient quand même décidés à une offensive, malgré le peu de Gaulle qu'ils avaient, ils avaient décidé que le marché derrière Bruxelles, qui n'était pas enthousiaste de la guerre, ils ont obtenu des succès, puisque l'Hongrie a capitulé, puisque Verdun a capitulé, mais que, par bonheur, Danton a sauvé la situation. Danton est un personnage jusqu'alors de second plan, tout à coup, grâce à la convention, grâce à la commune insurrectionnelle, il est devenu un personnage de premier plan, mais il va rendre de grands services aux Girondins. Les Girondins sont épouvantés par la question de la propriété, des frontières, des anarchistes, des gens qui vont nous voler. Alors Danton va faire un discours le jour même de la convention se réunit, en disant, comme ça, la propriété, sous toutes ses formes, écoutez-moi bien, elle sera maintenue éternellement, sans mot qu'on emploie peu dans le langage logique et juridique, mais Danton l'a envoyé. La propriété éternellement sera garantie, quelle qu'elle soit, propriété individuelle, commerciale ou industrielle. Alors il rassure, Danton est en effet du gouvernement, à côté des Girondins, mais c'est la couche. C'est un homme qui arrange les choses, et en particulier, il les a arrangées du point de vue menaçant, du point de vue militaire. Est-ce que vous avez vu avancer les Austro-Prussiens? Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Eh bien, le 2 septembre, c'est pas encore la convention, c'est la fin de législative. Le 2 septembre, Danton va prononcer un discours qui lui vaudra sa célébrité. Et c'est le Danton du 2 septembre qui est sur toutes les statues en France. C'est l'homme qui dit, de date, encore de date, et la patrie sera sauvée. C'était une plaisanterie. Parce que si vous voulez Danton, ben, vous devez obtenir des engagements. Vous devez obtenir que des volontaires se précipitent sous les drapeaux qu'on avait organisés pour souscrire à l'engagement pour les soldats. Et Michelet lui-même, qui pourtant aime bien Danton, reconnaît Danton opérer ainsi un allègement, vous appelez un allègement de la population parisienne. C'est-à-dire qu'il poussait du côté de l'armée des gens qui socialement seraient très dangereux, c'est-à-dire les jeunes prolétaires. Alors si Danton allait s'engager, on ne parlera en effet que de la guerre, une guerre conduite par Danton avec beaucoup d'habileté, parce qu'il va s'arranger, avec les Prussiens. Et je sais très bien s'il leur a dit quoi qu'on n'affirme pas, mais aujourd'hui je peux vous dire, parce que ça, ils ont dit, il a fait savoir aux Prussiens, Danton, attention, ne vous avancez pas trop vers Paris, parce que vous voyez ce qui vient de se produire, qu'est-ce qui vient de se produire. Et bien qu'à la nouvelle que les Prussiens avançaient, les gens qui étaient emprisonnés, les royalistes, mais ils faisaient leur grand joie. Comme quand ils avaient de l'argent, ils pouvaient obtenir des festins à l'intérieur de la prison, ils le faisaient. Le voilà qui, le 1er septembre, le 2 septembre, tous des cris de joie, en se félicitant d'y avoir été délivré, à bas la République, à bas la gauche. Alors, ici, c'est pas dit que la commune avait envoyé des délégations qui allaient procéder au massacre, tu sais quoi. Mais je n'ai dit, encore, c'était 3 ou 400 ouvrages, non, pas du tout. C'était organisé très scrupuleusement, vous savez. Dans chaque région, il y avait le petit jury populaire qui s'installait. On disait, celui-ci ou celle-là, ben, on l'a tué, on le tue, ben, celui-ci ou celle-là, on le vénit. Pendant 4 jours, il y a eu à Paris des choses affreuses, c'est-à-dire les massacres des prisons de septembre. Alors, Robespierre n'avait du reste osé rien dire. Il les approuvait. Danton, qui est le ministre de la Justice, ne disait rien. Pétion, qui est le maire de Paris, ne disait rien. Parce qu'on avait l'impression qu'il y avait un tel chose de jour populaire que c'était, il fallait attendre que ça passe. Mais alors, ce que Danton avait fait du côté des Prussiens, c'est de garder à côté. Je ne veux plus garantir la vie du roi. Il est au temple, vous savez, de cette prison du temple. Si vous vous approchez de Paris, vous allez voir. La plaine, le petit peuple, les princes, vous sont jetés dans le roi, vous tuez le roi. Alors, je vous en prie, n'avancez pas trop, parce que vous-même, ça qui est venu pour sauver le roi, vous allez le conduire à sa perte. Alors, le roi, plus ça vous dit, ah, c'est entendu, on va s'arrêter. Mais comme il fallait tout le monde s'arranger pour donner le change, alors vous avez fait le simulacre. Et je sais ce que je dis. Le simulacre de Valigny. On a appris là, j'ai des petits élèves de classe enfantine en France et de classe secondaire, on m'a dit que c'est le premier grand succès de la République d'Or. C'est pas encore la République, c'est pas proclamé, c'est le 27 septembre, la République sera proclamée 2 jours plus tard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, vous savez bien, vous ne savez pas. Quand je parle de bataille de Valigny, il y a eu échange de coups de canon. Mais la fameuse nation chrétienne, redoutable et redoutée de Danton, avait ordre de ne pas bouger. Elle a entendu les Français s'attendre la fin de nuit. Si bien qu'il y a les deux puissantes armées qui se faisaient face, mais il n'y a jamais eu de combat corps à corps. Il n'y a pas eu d'offensive française, on a tiré des coups de canon, on a tué du monde, il y a eu environ 500 tirs à coups de canon, et c'est tout. Et puis le lendemain, donnant la parole, fidèle à la parole qu'ils avaient donnée, les Prussiens commencent à sortir. Il n'y a que le 1er octobre, il n'y a plus de Prussiens sur le sol français. Et même, il y avait à cause des volontaires, qui avaient du genre au ventre, Genmap, qui est une victoire, remportée le 6 novembre, la Rhénanie se défend très peu, le Spire, Vange, Fontformel, sont pris, mais bien également, enfin ça va très bien, la situation extérieure française est excellente, et Nice et la Savoie offrent l'annexion à la France. Donc ça va bien. Il y a un problème immédiat, qui est le sort du roi. Robespierre a pris position pour la peine de mort. Et c'est intéressant de savoir qu'il n'a pas fait le premier, Saint-Just l'avait fait quelques jours auparavant, le 13 novembre, et Robespierre fait le 3 décembre 92 qu'il a pris position. Il faut savoir que c'était Robespierre qui, du coup, de la Constituante, avait demandé l'abolition, vous savez bien, l'abolition de la peine de mort dans la justice française. Et ce raisonnement est le suivant. Lorsque quelqu'un qui est un criminel est en prison, ça serait un assassinat gratuit que de tuer cet homme qui est maintenant sans défense. Il est plus dangereux, puisqu'il est emprisonné, il pourrait être emprisonné à vie, mais je ne vois pas pourquoi on le tuerait. Ce serait une vengeance qui n'a pas de raison d'être. Et cependant, voilà le même d'entre eux maintenant qui prend position par la peine de mort chez le roi, en disant. Il ne s'agit pas de jugement. Il n'y a pas de procès à faire. Il n'y a qu'un constat à enregistrer. Vous n'êtes pas des juges, dit-il de l'eau conventionnelle. Vous êtes des hommes d'État. Et au point de vue de l'État et de l'intérêt de l'État, vous êtes obligés. Il faut faire disparaître la personne du roi. Parce que tant que le roi sera vivant, il sera un danger pour la République. Parce qu'il représentera un espoir positif, non seulement à l'intérieur, tant pour les royalistes qui peuvent se dire, il est encore là, mais même du point de vue extérieur, parce que, dit-il de manière habile, mais aujourd'hui on peut comprendre, le roi peut servir aux intérêts de ceux qui ne veulent pas d'une guerre réelle. En effet, il ne présente pas publiquement Danton, mais il savait très bien que Danton avait fait savoir aux Prussiens, si vous avancez, c'est le sort du roi qui va être. Il faut faire disparaître le mythe royaliste. Et vous savez bien aussi, je l'ai dit je crois une première fois, que l'idée de la monarchie était jointe dans beaucoup de pensées à l'idée de la propriété. Le roi était une espèce de garantie utile de la propriété. Il faut faire disparaître ça. L'idée aussi que le roi dépend, que le roi a un droit divin. Il n'y a pas de droit divin, disait Robespierre. Alors si on coupe la tête du roi, on coupe la tête à la monarchie en France. Voilà pourquoi les Girondins vont faire tout ce qu'ils pourront pour garder le roi à cause de cette personnalité mythique dont je vous ai parlé. Ils vont demander une consultation nationale. Robespierre s'y oppose avec de mauvais arguments. Ils vont demander un sursis une fois sa peine de mort qu'ils n'ont pas osé voter contre. Quand la peine de mort a été votée, Robespierre s'oppose de nouveau au sursis. Et le 21 janvier 93, le roi Louis XVI est décapité dans une exécution morne. Quelquefois, on nous raconte qu'il y a eu de grands crimes de la République, ça n'est pas vrai. Les documents contemporains que je possède disent, les gens ont regardé, n'ont rien dit, un grand silence. Le roi a essayé de parler, et vous savez comment il a roulé le tambour, il a couvert la voix. C'est tout. Ça s'est passé d'une manière triste. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la Convention? Ben, il se passe que je vous l'ai dit, on est serré à la cible, et vous voyez, véritablement la cible, des Girondins. Le ministère de l'Intérieur est possédé par ce nommé Roland. Roland a créé ce qu'il appelle le bureau de formation de l'esprit public. Vous avez le bureau de formation de l'esprit public. Et il répand à travers la France des nouvelles, des ininterrompues, enfin des articles, des petits textes contre la députation de Paris et contre Robespierre personnellement, représenté comme l'homme le plus dangereux. Le 1er mars, voilà tout à coup, les autres Prussiens, qui ont repris du poil de la bête, attaquent. Notre situation politique militaire était très bonne. Dumouriez s'était emparé de toute la Belgique. Le 14 novembre, il est entré à Bruxelles. Le 29 novembre, il est entré à Liège. Nous possédions, enfin la France possédait la Belgique, elle se préparait même à annexer. Mais voilà, tout d'un coup, et un peu à l'improviste, les Ouvriers attaquent. Et du côté de Saint-Chapelle, les forces que Dumouriez avait laissées, lui s'occupait d'entrer en Hollande, ces forces dirigées par le général Miranda, sont bousculées. Si bien que le 8 mars arrive à Paris une nouvelle déplorable. On dit Liège va être perdu et c'est une remonte de son prochain devant vous. Nous sommes en présence de deux journées que j'appellerai énigmatiques. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai bien tout ce qu'on peut lire. Je peux vous dire qu'aujourd'hui encore la question est très loin d'être éclaircie. Deux journées opaques qui sont les journées du 8 et 9 mars 1993. Je serai incapable de vous dire quel a été le comportement de Danton. Et Robespierre ne parlera pas. Il dirigeait à ce moment-là une publication hebdomadaire qui s'appelait Lettre de Maximilien Robespierre, assez comme l'État, copiant d'ailleurs ce qu'avait fait Mirabeau, qui lui aussi écrivait comme ça, assez comme l'État. Et bien, au début d'avril, Robespierre va consacrer un numéro à ce qui s'est passé aux événements de mars. Et après avoir annoncé qu'il allait parler aux événements de mars, il n'en parle pas. Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu commencement de mouvement populaire, qu'on se demande ce que, si Danton n'était pas derrière, qu'à ce moment-là, il y avait une tragédie du côté de Dumouriez, que Dumouriez va aller beaucoup plus loin que la Fayette, ne va servir à la République, alors il a démissionné, il s'est retiré, il s'est même fait prisonnier des Autrichiens, tandis que Dumouriez va passer à l'ennemi, Il s'est fait battre, il a reçu une défaite, à Leerdingen, il allait trouver les Autrichiens, et il va mettre, écoutez bien, son épée au service de l'Autriche. Donc c'est exactement un prêtre. Cependant, Danton a protégé, Dumouriez jusqu'au bout, et tout ce qui a résulté de ce tentative d'insurrection des 8 et 9 mars, c'est que le 10 mars, Danton va faire voter, l'institution du tribunal révolutionnaire. Ce tribunal révolutionnaire que Danton fait créer personnellement le 10 mars 1993, c'est ce tribunal révolutionnaire qui lui fera couper la tête un an plus tard. Robespierre se préoccupe de la Constitution, puisque la Constitution, la Convention est là qu'une Constitution numéro 2 pour faire une Constitution républicaine, et il voudrait que soit modifié le droit de propriété. Il prend l'exemple. Première exemple, la liberté a pour limite la liberté d'autrui. Quand il s'est maintenant le droit de propriété, et j'ai donc devant vous, disait-il à la tribune, ce je saute, je me trompe, ajoute-t-il, non, ce cercueil flottant. Nous sommes entassés des hommes, des femmes et des enfants à la peau noire. Vous n'avez pas détruit la traite des noirs. Alors le propriétaire du bateau, quand on lui demande quelle est votre propriété, il montre ce bateau. Il dit, ceci est ma propriété. Et Robespierre ajoute, voici ce qui n'est pas possible. Personne ne peut être, aucun homme ne peut être la propriété d'autrui. Je demande donc que dans la prochaine constitution, le droit de propriété soit ainsi rédigé. Ce droit de propriété ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l'existence de nos semblables. Eh bien, les Girondins sont naturellement fous furieux contre lui. Il faut savoir que les Girondins avaient une doctrine là-dessus. Cette doctrine, c'était le libéralisme économique impitoyable, puisque Roland, ministre de l'Intérieur, quand on lui avait demandé ce qu'on peut faire pour essayer de limiter les disproportions monstrueuses entre les riches et les pauvres, avait dit, quant aux affaires économiques, la seule chose que peut se permettre le gouvernement est de déclarer qu'il n'interviendra jamais. Vous entendez que le gouvernement n'interviendra jamais sur des questions économiques. Alors voilà, si Robespierre s'y se mêle de toucher à la propriété qui est l'archesainte, parce qu'il y a la chose à laquelle on ne touche pas, si bien qu'il n'obtiendra rien, et que les conventionnels girondins vont déclarer simplement ceci, le droit de propriété est celui de jouir et de disposer à son gré de son bien. La tension entre lui et les Girondins ne va pas cesser de croître. Les Girondins sont de plus en plus inquiets de ce qui peut se produire à Paris, et là derrière, vous remettez à les faubourgs. Il faut bien se rendre compte que si le marais, c'est-à-dire le centre, qu'on appelle aussi le ventre, qu'on appelle la plaine, simplement, si ces gens-là, qui sont les grosses majorités de la Convention, n'osent pas bouger, c'est qu'ils ont peur de ces faubourgs qui soutiennent Robespierre. Robespierre est l'élu des petites gens de Paris. Par conséquent, tant qu'il aura l'appui des faubourgs, on ne peut rien faire contre lui. Mais c'est tout de même très dangereux, c'est invraisemblable que Paris ne soit pas réduit, comme disait un petit Girondin, à son 83e d'influence, il y a 83 départements, d'après les 5 départements parmi les autres, et au mois de mai, les Girondins vont se permettre une offensive, une agression, enfin, contre la Convention, en disant qu'il faut appeler au secours la province. Là, vous voyez des gens comme Cambon, qui avait dit lui-même, j'ai un heureux habitant d'Ivry. Si vos propriétés sont menacées, levez-vous. Maintenant, vous avez Pétion. Pétion qui était sur le foie, un homme acclamé comme Robespierre, maire de Paris, et qui est devenu un homme de droite. Il s'adresse aux, entre guillemets, braves habitants de Paris, vos propriétés sont menacées. Voici maintenant Vernot. Écoutez bien, homme de la Gironde, levez-vous. Plus une minute à perdre, sous peine de voir se dissoudre tout le corps social. Louvet, qui avait accusé Robespierre de viser la dictature. Vous le prononcez maintenant un discours en appelant à la guerre sainte contre les brigands. Les brigands sont ceux qui parlent d'une modification de la propriété. Gadet va dire échafaud aux détrousseurs. Et le 25 mai, Isnard, qui est un parfumeur, comme on dit, c'est-à-dire à grâce à un entrepreneur de parfumerie, Isnard va faire un discours invraisemblable à la tribune de l'Assemblée. Le même Isnard qui avait dit c'est une guerre pacifique, nous allons apporter de la liberté à l'Europe. Isnard dit, si jamais il est porté à faire avec la propriété dans Paris, toute la France se lèvera, détruira la ville de Paris à ce point, disez-vous, parce qu'il est lyrique, à ce point que quelques temps plus tard, quelques années plus tard, on se demandera si jamais une cité a existé là. Le Girondin Isnard est en train de répéter le manifeste de Brunswick, vous vous rappelez, 25 juillet 82 de Koblenz, s'il est porté atteinte à la famille royale, Paris sera livré une entière subversion. Mais maintenant, c'est un Girondin Isnard qui annonce la destruction, la destruction de Paris, si on touche à la propriété. Évidemment, ça n'est plus favorable. Et Robespierre, qui est un homme de paix, qui n'est pas du tout anarchiste, Robespierre va dire, si ce n'est plus possible, j'appelle à l'insurrection. Attendez, à l'insurrection parlementaire. Il ne demande pas que le peuple se lève contre la Convention. Il veut un respect de la Convention. Mais en réalité, le peuple va se lever. Le 30 mai et le 2 juin, la Convention va être investie. Henriot, avec ses gardes nationaux plébéiens, va même diriger ses canons contre eux. Et les conventionnels, Robespierre va être mal écouté lorsqu'il dira n'allez pas trop loin, et surtout ne pas toucher à la vie de ceux que nous allons, dont nous allons prononcer la déchéance, et insurrection parlementaire, en ce sens que c'est la Convention elle-même qui va s'amputer d'un certain nombre de députés, il y en aura 32, simplement 32, qui vont être mis à l'extérieur, c'est tout de même un attentat à la représentation nationale. Michelet va déchirer ses vêtements, il va dire c'est le grand crime de la Révolution, c'est le moment où la Révolution a mal tourné. Mais Lamartine, dont je vais parler, Lamartine dira encore 6 mois de ce gouvernement et sans doute été fini de la France et comme nation et comme république. Robespierre est indulgent à l'égard de ces conventionnels qui rejettent. On a parlé des évolutions et il a dit surtout pas. Je vous demande simplement qu'ils soient assis à résidence dans leur domicile, dans un grand domicile parisien. Et que s'ils donnent leur carte d'honneur de ne pas quitter Paris, on les laisse en liberté. Vous doutez bien que la plupart du temps, cela va se sauver, sauf un homme comme Vernier, qui a donné sa parole d'honneur et qui la tiendra, ce qui lui coûtera la tête. Mais la plupart des Girondins, après avoir promis qu'ils ne bougeraient pas, s'en vont en province, et ils vont faire ce qu'ils allaient annoncer. Ils vont essayer de soulever la province. Alors, il y avait déjà un drame qui commençait en Vendée. C'est le 11 mars 93, qu'on avait décidé, non, on avait décidé au début de mars, une levée, non pas mon âge, une levée de 300 000 hommes, à Machecoul, au Vendée, en Savoie inférieure. Les Vendéens, les SNS, étaient jetés contre la République, ça avait commencé par un carnage de républicains. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle avec joie de certains côtés, mais c'est le site qui serait opéré en Vendée, c'est absolument vrai que les républicains se sont souvent très mal conduits, ont fait un carnage. Il ne faut pas oublier que ça a commencé par un carnage de républicains à Machecoul le 11 mars. Alors la situation est très dramatique parce qu'on a la Vendée en feu. Il y a les Girondins qui ont essayé de soulever les départements contre Paris. À Lyon, par exemple, il y a une issue avec les républicains et renversée par la bourgeoisie. Et Lyon se met en sécession. À la fin du mois de juin, au début du mois de juillet, si vous voulez, 93, 60 départements sur 83 sont en état d'insurrection. Le 10 juillet 1993, il y avait un renouvellement du comité de salut public. Ce comité avait été élu le 6 avril, et dans des conditions assez curieuses, Danton avait fait le 1er avril un discours déchaîné contre les Girondins, puis le 4 avril, il avait été tout gentil, tout conciliant, il avait dit rapprochons-nous fraternellement. C'est venu comme comité de salut public, la première fois qu'il apparaissait, c'était créé le 6 avril, avec Danton à la tête, Danton Védèvre avait cela n'en fait pas partie, et encore même des non pas les Girondins, puisqu'ils auraient été issus, mais les amis des Girondins. Comme du talisman qui se conduisait formel, qui ne faisait rien d'intéressant, qui au point de vue de la Vendée se conduisait très mal parce que on avait envoyé là-bas le général Westermann, qui était un personnage suspect, et qui avait levé à Paris des volontaires à 500 livres, donc du ridicule, ce volontaire à 500 livres, 500 francs immédiatement pour quelqu'un qui allait combattre en Vendée. La plupart de ces gens qui appartenaient, hélas, à la racaille parisienne, elle est considérée la Vendée comme un lieu de pillage et de viol. Si les troupes républicaines se faisaient régulièrement battre. Ce malheureux comité de salut public ne faisait rien d'efficace, et le 10 juillet 93, renouvellement. Le comité de salut public va être renouvelé tous les mois, le 10 juillet c'est renouvellement. Et alors là, figurez-vous que Danton décide de se retirer. Pourquoi? Oh, vous savez, comme il fait, Danton, c'est un homme qui parle beaucoup de choses sexuelles, et comme il venait de se remarier, il avait perdu sa femme en février, un jeune qui s'était remarié avec une gamine qui avait pas 16 ans, alors il disait, il aimait beaucoup taper sur le ventre de ses copains, qui voulait y avoir tout le monde, il disait, j'ai tellement de choses à apprendre de cette petite, foutez-moi un peu la paix, laissez-moi vivre ma vie de me marier. En réalité, c'est que Danton, sauf que la situation est très dramatique, que toutes les choses, ça tourne mal, et qu'il se réserve. Il ne veut plus de responsabilité, il veut se mettre dans la coulisse. Le 10 juillet, entre le comité de salut public, 3 amis de Robespierre. Il y a Saint-Just, il y a Couthon, et il y a Jean de Saint-Antoine. Je vous en parle peu parce que c'est le vrai de la Révolution, mais il était vraiment Robespierre. Et ils disent à Robespierre, voilà que l'on se retire, écoutez, c'est votre place. Et Robespierre refuse. Robespierre n'entre pas au comité de salut public, alors on ouvre cette porte le 10 juillet. Pourquoi? Donc j'avais une première chose à vous dire et qui sera importante, puisque nous étudions la personne même de Robert Schultz, c'est un malade. Il a des mouvements convulsifs, des yeux, du cou, des épaules, il a certainement des équilibres nerveux, et on s'en va voir cet homme qui est en très mauvaise santé, qui est obligé assez souvent de prendre des congés réguliers, et je me risque un peu, puisque je ne sais pas, mais je penserai au volontiers qu'il avait ce que l'on appelle alors la schizie, que l'on appelle aujourd'hui la tuberculose. Alors il dit, ce n'est pas avec la santé que je peux prendre des responsabilités pareilles. Nous sommes le 10 juillet, et le 12 juin, Robespierre au convent, au Jacobin, a dit, je pense que je serai conduit à démissionner. Tiens, il veut démissionner, à cause de sa santé. Le 10 juillet, on dit, il veut placer là où il dit non. Et voilà que le 27 juillet, vous le suivez, le même mois, 27 juillet, une vacance se produit au comité des États-Unis, car Robespierre a dit oui. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont passé? Là, à mon avis, il s'est passé le 13 juillet. Le 13 juillet, Marat a été assassiné. Il a été assassiné par une Charlotte Corday, qui s'est conduite d'une manière ignominieuse, parce qu'elle savait que Marat était un homme très généreux, et qu'elle lui a fait passer le billet disant, je sais bien qu'il suffit d'être malheureux pour être accueilli par vous. Alors le pauvre Marat, qui était dans son bain parce qu'il avait des ulcères, et qu'il avait un bain tiède, fait entrer la jeune fille, qui immédiatement sert un poignard et lui enfonce dans le cœur. Elle avait bien étudié l'anatomie. Alors Robespierre se dit, voilà une mort intéressante. C'est une mort qui signifie quelque chose. Voilà un martyr républicain. La mort de Robespierre ferme nos idées. Et moi, je suis probablement condamné à mourir rapidement. Et il va me dire, je ne suis pas fait pour vivre longtemps. Et si je prends la parole, dit-il, le 14 juillet, le lendemain de la mort, c'est parce que je me sens promis aux honneurs du poignard. Et quand il dit ça, ben, il n'est pas loin de la mort, en effet. Alors, j'ai l'impression que si Robespierre accepte le 26 juillet ce qu'il a refusé le 10 juillet, c'est parce qu'il veut mourir en combattant plutôt que de mourir bêtement dans son vie. Il se constitue cible, puisqu'il dit, je m'attends moi-même à avoir les honneurs du poignard. Ben, regardons-le de très près, parce que ce 27 juillet 1993, il a très exactement 365 jours à vivre, puisqu'il va tomber le 27 juillet 1994. Alors voilà, Robespierre au pouvoir. Et bien cette fois, on va agir, je vous assure, on va agir. Du côté de Lyon, par exemple, on va décider que Lyon sera investi par une puissante armée républicaine à partir du 6 août. Du côté de la Vendée, on va obtenir que Kléber, qui a été obligé de rendre Mayence après une guerre sa existence, qui lui a venu les honneurs de la guerre, on va envoyer Kléber avec ses hommes, qui sont des soldats courageux, on va les envoyer en Vendée. Et là, ils sont durant en effet terriblement, mais ils vont arriver à vaincre les Vendéens. C'est bien que maintenant, la France se conduit du point de vue militaire d'une autre manière, certes, qu'elle l'avait fait sous le pseudo-comité de salut public du 1er avril. Robespierre a fait une décision sur laquelle on insiste peu, et je veux y insister. Robespierre a décidé que ce n'est pas toujours aux soldats qu'il fallait faire porter la responsabilité des échecs, et qu'il fallait penser à la responsabilité des généraux. C'est une chose scandaleuse. S'en prendre aux généraux, c'est inimaginable. Je me suis dit, vous savez, peut-être aussi la guerre de 1870-71, une guerre volontairement perdue par les généraux. Vous n'imaginez pas la stupeur que j'ai eue lorsque je me suis aperçu que plusieurs numéros du journal officiel étaient remplis de promotions, de décorations pour les généraux, pour les officiers supérieurs qui étaient si mal conduits. Est-ce que vous savez que le 26 mai 1940, alors que nous avions subi, nous Français, le désastre que vous connaissez devant ce genre et qui responsabilise depuis un généraux et est engagé, savez-vous que le maréchal Pétain, qui était à ce moment-là ministre de Rémy, lui écrit une lettre furieuse, une lettre insolente, 26 mai 40, en disant « Je vous interdis de frapper quelques généraux que ce soit. Je ne veux pas de punition pour l'armée. » Et bien Robespierre, lui, a décidé que les généraux seraient punis. Et on va voir se succéder à la guillotine des généraux français, en particulier Custine. Et je dois dire mon admiration pour la circulaire que Robespierre a signée à la fin de cette année, 3 décembre 1993, deux signatures, Saint-Just et Robespierre. L'insubordination des généraux est la pire dans une république. Dans un état libre, c'est le pouvoir militaire qui doit être le plus assis. Bon, alors maintenant, on va faire aussi une modification de l'armée. On va faire l'amalgame, parce qu'il y avait des gens qui ne s'entendaient pas. Il y avait des volontaires, habits bleus, qui élisaient leurs officiers, et qui avaient une somme supérieure. Puis il y avait l'ancienne armée, qui était les habits blancs. On va créer maintenant les bonnes brigades, avec à la fois des volontaires et des mineurs, qui viennent qu'il y aura quelque chose d'unitaire et de puissant dans l'armée française. Et oui, succès vont venir. Nous avions, depuis quelques mois, nous sommes habitués à des désastres, et voilà, successivement, il y aura Hunscott et Vatigny, Hunscott qui libère vainqueur, et Vatigny qui libère mauvais. La situation militaire se redresse grâce à l'action de Robespierre. Robespierre est gêné sur un point, Je ne sais pas ce qu'il veut faire quand il subsiste. Il avait autour de ça devant lui il y a quelques mois. Les Girondins, ils ne sont plus là. Et il y a beaucoup de gens qui pensent comme les Girondins, c'est interdit d'intervenir dans les questions économiques et financières. Libéralisme économique absolu. Alors, mes frères, n'est pas très sûr que ça juste non plus, qu'il soit plus juste, qu'il soit efficace d'introduire des moyens violents. Quels moyens violents? Poursuivre des accapareurs. Donc, c'est très bien en principe. Mais est-ce qu'il y a une distance qu'il faire entre un accapareur et un grossiste? Un grossiste peut-être appelé un accapareur. Le maximum. Décidons qu'on ne dépassera pas le prix de temps pour faire les denrées. C'est pas commun, parce qu'il y a tout de même la marge bénéficiaire normale du commerçant. Alors, il y a, c'est très hésitant, c'est un bel. Et non. C'est injuste, lui aussi. Je ne suis pas très sûr que les méthodes autoritaires, le point de vue économique, soient les bonnes. Alors, il hésite. Il ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. Mais il était présenté par le comportement de M. Cambon, le récipient Cambon, qui va se vanter le 24 août de créer le grand livre de la dette pour montrer que la République se conduit mieux que la monarchie à l'égard des dettes de l'État. Mais le même Cambon va décider d'une discrimination d'un tel environnement qui rend Robespierre stupéfait. Ce qui a basculé Robespierre, c'est la discrimination que Cambon a établie entre rentiers français qui touchent de l'État 1000 francs ou plus ou moins 1000 francs. Pour ceux qui touchent moins de 1000 francs, ils sont payés en assignat. Et pour ceux qui touchent plus de 1000 francs, ils sont payés en numéraire. Alors vous savez déjà, je vous l'ai indiqué, que l'assignat perdait de sa valeur jusqu'à 30 et 35% de sa valeur. Par conséquent, on pourrait admettre que ceux qui ont un petit rente, une petite rente de 1000 francs, soient payés en numéraire. Pas du tout. Ce sont les plus pauvres qui sont punis, et ceux qui touchent des numéraires, c'est-à-dire de l'argent solide, ce sont ceux qui sont plus migrants. Robespierre en est atterré, mais il ne peut rien faire. Et je vois pas, il est épouvanté aussi parce que Saint-Just avait appelé l'émission abusive du signe, c'est-à-dire le nombre des assignats. Il a suggéré que pendant l'été 93, 10 milliards nouveaux d'assignats ont été répandus. Il ne veut rien faire. Voilà qu'en septembre se produit un drame dans Paris qui ressemble un peu à ce qui s'est passé au mois de mars. Une horrible nouvelle survient. C'est Toulon qui a été livré aux Anglais par les deux amiraux français qui dirigeaient la Méditerranée, l'amiral Chauvreau, l'amiral Trogoff, qui se sont remis entre les mains des Anglais et qui ont permis aux Anglais de débarquer dans Toulon. Alors un mouvement d'agitation se produit dans Paris, des gens qui crient la faim, qui disent du pain parce que l'été a été très sec et que beaucoup de moulins à eau n'ont pas pu travailler, si bien que les arrivages de pain ont été irréguliers dans Paris. Robespierre va avoir accentué l'allure gauchiste, si vous permettez, de son gouvernement, puisqu'on va le voir qu'il va accueillir l'idée d'une armée révolutionnaire, attention, une armée dans Paris, une armée de prolétaires, ils sont 2000, ils ont une guillotine avec eux, et qui surveillera le ravitaillement de Paris. Deuxièmement, il va faire entrer au gouvernement, il va faire entrer au premier état public, deux hommes de gauche, carrément de gauche, l'un s'appelle Collodier Bois, l'autre s'appelle Billy Varenne, c'est qui compensera l'entrée de Carnot et de Prieur de la Côte d'Or qu'on lui avait imposé le 14 août et qui sont des conservateurs. D'autre part, un certain prêtre, un prêtre constitutionnel, l'un des royaux qui était évêque de Charles-Jussaume, je crois, évêque, a demandé de mettre la terreur à l'ordre du jour. C'est pour se faire bien voir de la gauche. Danton va demander au moins une tête par jour. Et là, Robespierre va en effet accentuer sa politique de gauche. Et même, on va le voir, plus favorable aux gens de l'Ultra, les Ultras, c'est les extrémistes de la révolution, qu'aux gens qui sont des indulgents. Des indulgents vont se manifester avec Camille Desmoulins, avec Danton dans la coulisse, et les Ultras, c'est les olertistes. Eh bien, en janvier, et en février, la situation militaire se rétablit, je vous l'ai dit. Et Malet Dupont, qui est un jeune roi au service des princes, va communiquer à Lord Elgin, qui va livrer ça à Vienne, un très remarquable document. Il se met à l'univers, qui est un observateur, dit « Nous sommes obligés de reconnaître que les troupes, les colonisées, les troupes, c'est-à-dire autrichiennes et prussiennes, ne disposent que de ce qu'on appelle des soldats matériels, sont différents à la cause qu'ils défendent. Ce sont, comme je vous le disais, des robots, quoi, des... C'est le galet ou c'est la légion étrangère. Tandis qu'en face, les soldats de Robespierre sont pleins d'énergie. Et il faut reconnaître que la politique de dureté à l'égard du maximum a donné des résultats parce que voici que la signa remonte. Alors, Robespierre est encouragé à commencer d'indiquer le fond de sa pensée. Le fond de sa pensée, il l'a livré brusquement le 21 novembre 1993. Lorsque j'ai produit un mouvement inattendu et qui le contrarie beaucoup. c'est ce qu'on appelle le mouvement de la déchristianisation. Et les 10 dernières minutes de cet exposé, je l'ai consacré à la pensée philosophique de Robespierre. Robespierre est quelqu'un qui a été catholique pratiquant puis qui a cessé de l'être, mais quelqu'un qui n'est pas enthousiasmé par Jean-Jacques Rousseau. Il est même allé voir, il avait 20 ans juste, et Jean-Jacques, quelques mois avant que Jean-Jacques ne meure, il était encore étudiant à Louis-Grand, Jean-Jacques était chez le marquis de Girardin, vers Menonville, et le jeune Robespierre, qui avait 20 ans juste, est allé voir Jacques Rousseau, qui sans doute a bien accepté de lui serrer la main, il n'a pas fait un discours, mais c'était pour lui émouvant. Robespierre est quelqu'un qui est dans la ligne de la profession de foi du Jean-Jacques Savoyard, quelqu'un qui a parfaitement approuvé la saisie par la nation des biens nationaux, quelqu'un qui a approuvé la constitution civile du clergé, qui a même approuvé quelque chose qui me paraît déraisonnable, que les évêques soient élus par tous les laïcs du département, alors que vous pouvez croire que c'est réservé aux catholiques. Non, tout le monde, s'il y a à ce moment-là, c'est le sens. Donc, ce sont les censitaires, c'est-à-dire les actifs, même s'ils sont incroyants, qui ont participé à l'élection des prêtres, des évêques, alors que les catholiques, qui seront les héritiers des hommes du peuple, parce que la théologie est très aristocratique, ben ceux-là, les catholiques plébéiens, ne pourront pas voter. Pour vous dire à quel point Robespierre est conciliant. Il a été scandalisé par le refus de la moitié, c'est vrai, la moitié du clergé français d'accepter la constitution civile du clergé, et soupçonne les prêtres non-jureurs d'être tels pour des raisons politiques beaucoup plus que religieuses. Mais voilà, que quand il voit un mouvement qui ne sort pas du tout de la plèbe, qui sort de grands bourgeois, comme un Arcarcisco, qui est un ancien péché qui avait plus de 100 000 mouvements, ou comme Léonard Bourdon, qui était un homme très considérable, ou comme des gens comme Marie-Dérive Chénier, qui n'avait pas à se plaindre du point de vue bourgeois. Nous savons aujourd'hui que c'est vrai. M. Soboul, qui était communiste, a fait une thèse très remarquable il y a une vingtaine d'années sur les sans-culottes parisiens du l'an 2. M. Soboul l'a dit, je n'ai jamais trouvé un seul procès-verbal de réunion populaire demandant quoi que ce soit contre lui. C'était donc un mouvement de gens de bien, un mouvement de notable contre lui, appuyé par un homme comme Cambon. Parce que nous, il avait été décidé qu'on allait maintenant changer de calendrier, qu'on allait faire un calendrier républicain, et quand l'évêque Grégoire, qui était un évêque jureur, avait demandé à Marie Chénier, Majesté, qu'est-ce que vous voulez? Ce que nous voulons, c'est une grande dimanche, j'ai dit, pour que les gens n'aillent plus à la messe. Remarquez que c'était un grand avantage pour le patronat, parce que les ouvriers, les travailleurs, au lieu de travailler, de se reposer, que les visions ne se reposaient que tous les 10 jours, il n'y a plus de dimanche avec des décalages. Ça aurait été resté extrêmement contre. Et puis, j'avais eu, brusquement, la décision de transformer Notre-Dame de Paris en temple de la raison. Et puis, il y avait encore, en plus, des mascarades, c'est-à-dire des défilés, des gens costumés, en costume ecclésiastique, pour former ça en dérision, qui défilaient dans la chambre, même qui dansaient dans la convention. Et la loi, qui se trouvait, un ancien ami des journaux, qui se trouvait à la présidente, leur dit, en une demi-heure, vous avez détruit 20 siècles de superstition, parce que le mot superstition représentait la foi. Alors voilà, Cambon décide de faire voter que tous les établissements religieux, parce que les églises, seront fermés, arbitrairement fermés, et remis aux hôpitaux. Alors brusquement, Robespierre, jusqu'à l'Église, intervient. Et dit, je m'oppose, de la manière rapide absolue, à tout attentat à la liberté du culte. Je ne suis pas catholique, j'ai toujours été un mauvais catholique ajouté, mais je ne veux pas qu'on persécute ceux qui croient. Ça fait scandale. Et à ce jour-là, il ne se rend pas compte à quel point il se porte fort. Il faut vous dire qu'il avait déjà plusieurs fois manifesté des idées anti-encyclopédistes. Il n'aimait pas Condorcet parce que Condorcet était l'ami de Voltaire, et il avait une fois, aux Jacobins, enlevé la parole à Palissot, qui parlait contre la confession en disant ça ne nous intéresse pas. Une seconde fois, il avait fait enlever le buste de l'Église, et publiquement, au mois de mai 92, dans le journal qui est publié sur le Défenseur, publiquement, il avait dit, les gens comme Voltaire ou comme Diderot n'auraient pas été, s'ils étaient parmi nous, n'auraient pas été du côté du peuple. Combien il reste? 5 minutes?
Oui,
c'est à peu près. Bon. Alors, il va compléter cette affirmation du 21 novembre par un grand discours du 5 février 1994. Il a l'impression que les citras et les ultras, c'est-à-dire les gens indulgents ou les gens excessifs, se neutralisent les uns les autres, et il a commencé à dire ce jour-là le fond de sa pensée. Il faut comprendre que ce n'est qu'un prélude. Ce jour-là, il parle des idées morales qui vont diriger la révolution, et le 5 mai, il ira beaucoup plus loin, puisqu'il a parlé des pensées religieuses qui doivent participer à l'organisation de la République. C'est un autre très loin. beaucoup trop loin à mon sens. Robespierre est absolument déchaîné pour ceux qu'il appelle les apôtres du néant. Il dit, je veux bien qu'on m'adresse une superstition, mais je ne veux pas que l'on mette l'athéisme à la place de la superstition. Et il a décidé ce jour-là de se faire voter par une chambre qui lui est encore soumise parce qu'elle a peur des faubourgs, de faire voter l'article 1 de cette nouvelle décision. La France, ou la nation française, reconnaît l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'homme. Si favorable que je sois à la pensée de Robespierre, si d'accord que je sois avec lui lorsqu'il déclare, il est absurde de dire qu'un peuple religieux ne veut pas être un président républicain, je ne peux pas manquer de vous dire que j'ai estimé que, et si, quand on est sur ce jour-là, va au-delà du possible. Si en somme, une religion d'État qu'il propose, eh bien, l'État n'est pas assimilé de religion. Et Robespierre ne peut pas dire, la nation française reconnaît l'existence de Dieu, puisqu'il y a une partie de l'opinion religieuse française qui ne reconnaît pas l'existence de Dieu. Il va donc au-delà de ce qui est possible. Il ne se rend pas compte qu'avec la fête de l'être suprême, qui aura lieu le 8 juin 94, et c'est 1894, il sait très bien, il se souvient très bien, où mon ancien calendrier, c'est le jour de la Pentecôte, aura lieu la fête de l'être suprême, comme a souvent ridiculisé. Mais j'ai mis compte rendu chez un homme qui avait 14 ans à ce moment-là, qui est Charles Maudier, qui n'est pas un passionné. Il me dit, je me souviens de ce 8 juin 94 comme un jour merveilleux, une discothèque étonnante. Le ciel était complice, il était un temps splendide, il y avait un soleil radieux, et il y avait une espèce de bonheur dans le peuple. On avait l'impression que la terreur, qui était déjà longtemps tuée par mal de gens, allait se terminer. Robespierre, qui avait d'habitude triste et austère, portait un très gros bouquet tricolore qui lui avait été donné, je crois, par Éléonore Duplessis, qui était amoureuse de lui, une des filles du Duplessis chez qui il habitait. Et Robespierre était tout heureux. Mais à la fin de la journée, lorsqu'il prononce son discours, lui, sur l'être suprême, il entend pour la première fois monter de la convention qui était là toute réunie, sous la richesse d'environ 560 députés, des protestations, des cris, des hurlements. Fouché, se montra plus tard d'avoir été un de ceux qui a insulté Robespierre. Il en tombe de sang. Il ne s'attendait pas à ce que du côté de la convention, on lui dise des choses pareilles. Alors il essaye de lutter en faisant voter deux jours plus tard la fameuse loi de Prairial. C'était une loi terrible. Une loi qui défendait à la vérité de présenter des mains. Une loi qui disait on n'a pas besoin de faits matériels, des faits moraux suffisants. Enfin, c'était un moyen de couper la tête avec une rapidité terrible. Robespierre voudrait, je crois, éliminer un certain nombre de gens. 5 ou 6, dira Cocteau, pas plus de 5 ou 6. Mais enfin, tout de même, l'année précédente. Il a signé son arrêt de mort, figurez-vous ce jour-là. Son arrêt de mort. Robespierre va être renversé par une coalition. Buonarroti dira la coalition des profiteurs d'une part et des voltairiens d'autre part. Il y a des tas de gens qui le détestent, en particulier les représentants en mission qui va faire venir, parce que les représentants en mission se conduisaient très mal, comme Javot dans celui-là, comme Dumont dans le Nord. Augustin Robespierre, son fils, son frère, avait été envoyé pour réparer les erreurs commises par ses révolutionnaires excessifs. Et aussi tous ceux qui se disent que Robespierre parle maintenant de paix. C'est vrai, puisque la France n'est plus envahie. Et qu'il avait fait voter par la Convention une loi disant la France ne traitera jamais avec un ennemi occupant plus de son territoire. À partir de Fleurus, qui est du 27 juin 1994, Fleurus, qui a plus d'ennemis sur le territoire français. Alors maintenant, faisons la paix. Mais Robespierre ne pense pas à ce qu'il avait décidé de cette guerre. Donc je vous ai dit que c'était une guerre rapide. Et il y a Carnot qui représente l'armée. Carnot, l'homme, soi-disant des 14 armées, et qui dit c'est pas possible, c'est au moment où la guerre commence à rapporter, vous voulez s'arrêter. Si vous saviez quelles sont les dépêches que Carnot envoie, je vois une dépêche à Pichegru, où il lui dit, vous êtes dans les lignes de guerre, prenez tout, il faut vider le pays. En Rhénanie, il faut organiser ce qu'il appelle les bureaux d'évacuation pour prendre toutes quelques richesses possibles. Un nos représentants en mission qui sauve à l'armée du Nord, il leur dit, montrez à vos soldats les richesses de l'Allemagne. Mais c'est exactement ce que va faire Robespierre le 1896, lorsqu'à la tête de l'armée d'Italie, il va dire à ses soldats, soldats, vous êtes mal chauffés, vous êtes mal nourris, mais voyez devant vous ces belles villes de la Lombardie où vous allez pouvoir entrer. Ça, c'est cette guerre de pillage. Robespierre voulait l'annuler. Il a fini son arrêt de mort. Fini son arrêt de mort. Pas la peine que je vous raconte, enfin, tout le monde le sait. Le 26, lui, il ne va plus jamais au comité de Zurich. Le 26 juin, il prend la parole et il attaque. C'est un curieux discours, incohérent du reste, un discours qui est à la fois un défi et un testament. Il va attaquer nommément, il dit nommer les gens. Et bien j'attaque nommément M. Cambon, dit-il, pour favoriser les riches et désespérer les pauvres. Et puis vous savez que le lendemain, Saint-Just va essayer de commenter le discours de Robespierre, que le complot est organisé, qu'on s'est entendu avec la plaine, le marais, qui ne supporte Robespierre que parce qu'on a peur de lui. On s'est arrangé pour que la petite plèbe se sépare de fleurs. On a inventé un nouveau maximum. C'est le maximum des salaires. Si bien qu'on peut y aller, c'est le 27, Robespierre est brusquement renversé. Il pourrait se sauver. On l'a libéré. La commune l'a libéré. Il refuse de participer à quoi que ce soit qu'il soit en diffusion de son produit. C'est pas la peine. C'est perdu, il dit. Et vous savez qu'on lui cassera la mâchoire par un coup de pistolet dans la nuit du 27 au 28 juillet. Il va être tué le 28, puis le 2. C'est un serviteur. Vous savez, la mort de Robespierre est une chose saisissante. Parce que j'ai lu le commentaire des médecins. Il a vu la mâchoire cassée à 2h du matin. C'est à 6h seulement que les médecins sont venus. J'ai vu le rapport, dit je l'ai publié. Et on lui a fait certainement beaucoup de mal. Nous lui avons enlevé un petit peu de la mâchoire, on lui a enlevé des dents et des os. Il a dû souffrir terriblement. Il n'a pas poussé un seul gémissement. Et il gardait les yeux fixés sur le plafond. Savez-vous, je ne suis pas persuadé qu'il fut particulièrement attentif aux moulures du plâtre. C'est un homme qui était profondément croyant. C'est quelqu'un dont on nous dira, c'est un voyageur allemand. Vous savez, dans cette maison des Duplets où il habitait, on était très pieux. C'est un voyageur allemand qui nous a ressenti en 95. On faisait la prière avant tous les repas. Et c'était Robespierre qui faisait la prière. C'est pourquoi le Danton appelait les Duplets une jésuitière. Le 9 Thermidor, c'est le prélude du Gibbonnet. Le Thermidor, ce sont les gens favorables au sens et au NS qui vont revenir au pouvoir. Dans cette convention même, voici Danglars, va se faire applaudir en disant une nation gouvernée par les propriétaires et dans l'ordre naturel, et nous allons, avec Napoléon, de l'Isigonère, commencer l'ère qui n'est pas encore terminée, où l'argent sera le roi. Il a parlé une première fois sur l'espère à consulture, c'était pour une espèce de portrait assez sommaire. Est-ce qu'aujourd'hui, je voudrais regarder ce personnage assez énigmatique de très près, entre deux dates précises qui sont le 8 juin et le 27 juillet 1994. D'abord, il faut savoir que Robespierre était sur la brèche pratiquement depuis la convocation des états généraux. Mais il n'avait pas vu faire grand-chose. J'ai déjà parlé de lui, je vous ai raconté comment la constituante, on lui fermait la bouche lorsqu'on ne voulait pas entendre encore Robespierre défendre la cause des pauvres. Bon, maintenant, il est député, puisqu'il n'était plus dans la législative, et il est député depuis septembre 1992, député à la convention et représentant de Paris. Il s'est aperçu tout de suite qu'il avait contre lui l'animosité féroce, je veux dire féroce, des Girondins, et particulièrement du ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Roland, je vous l'ai dit. Roland avait constitué ce qu'il appelle un bureau de formation de l'esprit public, répondant à travers la France, à prise d'ordre, toutes sortes de libelles, d'articles, de petits bouts de papier contre Robespierre, disant que c'était un anarchiste, disant qu'il y avait quelqu'un qui visait à la toute-puissance. Robespierre avait été très impatienté, il ne pouvait rien faire contre ces Girondins. Et il s'était aperçu tout de même qu'au mois de mai, 1993, ils allaient un peu fort. Figurez-vous qu'ils étaient tellement effrayés par ce qui se passait à Paris, les communes insurrectionnelles et les faubourgs, qu'ils avaient commencé à appeler à l'aide, vous m'entendez bien, les provinces, dont ils étaient représentants. Madame Claude Verdier, on s'était adressé pacifiquement à ses commettants, généreuse population de Bordeaux, braves habitants de Bordeaux, plus une minute à perdre, je vous sous peine de voir ce discours, tous les liens sociaux à Paris. Et puis, vous vous rappelez le manifeste de Brunswick, où les Austro-Prussiens disaient, si on se trouve du mal à l'égard du roi Paris, sera livré à une entière subversion. Eh bien, le député français Isnard, parce qu'il a le peur de Paris, disait, s'il y a des atteintes à la propriété dans Paris, toute la province s'élèvera, on anéantira, vous entendez, on anéantira Paris, et comme il avait le sens du lyrisme, il disait, et dans un siècle, un promeneur des bords de la Seine se demandera si jamais une ville a existé là. Ça avait un peu fort, hein, c'était du 25 mai. Alors Robespierre approuvera le soulèvement populaire qui va se produire, les 30 mai et 2 juin, il y aura une manifestation redoutable, la garde nationale d'Henriot va fermer la convention, et la convention elle-même va s'amputer de 32 députés girondins. C'était déjà intéressant, mais tout de même, Robespierre ne veut pas monter au pouvoir parce que il a un peu peur des responsabilités et parce que, j'y insiste beaucoup, sa santé est une santé atteinte. Je ne sais pas, au fond, ce qu'il avait. Dans un langage contemporain, on pourrait dire probablement une tuberculose pulmonaire, je crois. On parlait à cette époque de schizophrénie. Toujours est-il que Robespierre est un homme de mauvaise santé qui est très souvent obligé de s'arrêter et vous allez le voir bientôt s'arrêter gravement. Alors, le 10 juillet, le comité de salut public, qui avait été créé le 6 avril, le 10 juillet, le comité de salut public est renouvelé, comme il est renouvelé chaque mois. le principal personnage, comme il était juif, s'appelait Danton. Et puis Danton vient de déclarer qu'il ne veut plus être réélu. On nous a raconté quelquefois, il y a des livres qui disent que Danton a été exclu. Non, 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 il n'a pas été exclu, il a fait savoir, ne votez pas pour moi, je ne veux plus faire partie de l'Église République. Alors on se pose la question, je sais bien qu'il a une présentation particulière, Danton, il dit aux gens, écoutez, je m'en suis remarié, c'est vrai, il avait perdu sa femme en février 87, il s'était remarié au mois de juin, le célibat lui paraissait difficile de tout seul, car il avait deux gosses. Et alors, il disait parce qu'il était un gaillard, il tapait sur le ventre des gens, les tutoyeurs, et en leur expliquant des choses très précises, il leur dit, vous savez, la petite que j'ai épousée, hein, elle a même pas 16 ans, alors vous vous rendez compte, hein, je vais toutes sortes de choses à lui apprendre, alors foutez-moi un peu la paix, laissez-moi tranquille, avec ma petite femme. En réalité, la situation était telle, la situation était si dramatique, nous allons le voir, que je suis convaincu que Danton cherchait à s'excuser, se placer en coulisses, parce qu'il avait plein de choses pour dire. Situation dangereuse, eh bien, je vous assure que c'était vrai. Premièrement, les Austro-Prussiens avaient fini par attaquer. Ils avaient attaqué le 1er mars, et pour de bon. Ils avaient attaqué du côté de Saint-Chapelle. Ils avaient culbuté la petite armée de Miranda, parce qu'à ce moment-là, Dumouriez, qui était le grand chef, était en Hollande. Dumouriez était revenu en Hollande, il s'était fait battre à Neerwinden le 18 mars, je crois. Et vous savez peut-être, ou vous ne savez pas, que Dumouriez avait trahi d'une manière monstrueuse. Là, ça y est, il n'avait pas voulu servir la République. Alors, il avait simplement démissionné, mais il s'était fait faire prisonnier par les Autrichiens. Tandis que Dumouriez, il passe à l'ennemi en offrant, écoutez bien, en offrant son épée à l'ennemi. Il faut bien être à vos ordres et combattre les Républicains. C'est énorme, hein. Et ça n'empêche pas que ce même Dumouriez n'avait qu'à vérifier la chose. Il a son inscrit sur l'arc joyeux de l'étoile parmi les grands soldats de la République. Passons. La situation militaire est donc terrible, la Belgique a dû être évacuée, la Rhénanie qu'on avait conquise assez facilement est évacuée aussi. Il n'y a que la ville de Mayence qui tient bon. Les Anglais ont envoyé un contingent autour de Dunkerque. La province se soulève. Il ne faut pas oublier qu'à la Vendée, ça existe déjà. C'est le 11 mars, vous entendez, le 11 mars 93, qu'à Machoukoul, la guerre de Vendée a commencé. Et elle a commencé comment? Elle a commencé par un carnage de républicains. Ce jour-là, le 11 mars à Machoukoul, les fonctionnaires républicains ont été massacrés, exactement massacrés, oui, par la réaction royaliste, et pourquoi, on dira plus tard, c'est dans un sentiment royaliste ou catholique, pas du tout. À ce moment-là, il y a une première levée d'hommes, 300 000 hommes devaient être levés, et ces Bretons, ces gens de l'Ouest, qui ne parlaient même pas la langue du reste de la France, ils disaient, qu'est-ce que c'est, on n'a pas envie du tout d'aller sur pour les idées qui ne sont pas les nôtres. Bon, toujours est-il que la Vendée était en feu. Et puis les Girondins, quelques-uns s'étaient échappés, et puis d'autres qui restaient en province, avaient contribué à soulever la France provinciale contre Paris. Figurez-vous qu'à la fin de juillet 93, 60, vous m'entendez, 60 départements sur les 83 étaient en révolte. Et donc, il y a une révolte militaire même, il va falloir envoyer des soldats. Ça veut dire que la situation est extrêmement dramatique, et quand le 10 juillet, on renouvelle le comité de salut public, trois amis de Robespierre y figurent. C'est injuste d'une part, Couton d'autre part, et un troisième qu'on oublie trop, qui s'appelait Bonfils-André, qui s'occupait surtout de Marine, et puis qui s'était à l'affaire, qui lui n'a pas été guillotiné, donc son souvenir s'est un peu effacé. Mais les deux amis principaux, Couton et Saint-Just, sont là. Et ils ont même fait quelque chose, ils ont fait quelque chose d'intéressant. Ils ont enfin détruit le rachat des droits féodaux. Je vous ai raconté la première fois que la nuit du patron nous avait fait croire aux paysans que les droits féodaux s'étaient terminés, qu'ils étaient rachetables. Vous avez indiqué dans quelles conditions ils étaient rachetables. La législative même avait dit, non, il y a des papiers, il y a des parchemins qui prouvent les droits féodaux qui existent. Eh bien, le comité de salut public, avec les trois Robespierristes, décide que faut finir, qu'on ne parlera plus de parchemins, que les droits féodaux sont enfin terminés. Robespierre refuse de venir. Pourquoi? Il y a diverses explications, mais j'en vois deux. Il y en a une, certainement, qui tient à sa santé. Parce que le 12 juin, et nous sommes le 12 juin, au Jacobin, il a dit, vous savez, ça va plus. J'ai l'impression que je vais être obligé de démissionner. Je lui ai donné sa démission parce que sa santé ne lui permet pas. Deuxièmement, il a peur aussi de ses responsabilités, peur de ne pas être à la hauteur. Et je suis sûr également qu'il a été très préoccupé par cette idée qu'on avait lancée dans l'opinion publique. Vous savez, Robespierre, c'est un avide, c'est un homme qui veut la toute-puissance. Alors il veut prouver qu'il ne vit en aucune façon à la toute-puissance en n'acceptant même pas une place au comité de salut public. 10 juillet. 27 juillet, le même mois, une vacance se produit. Il y a une démission au comité de salut public. Alors les trois amis sont là qui lui disent, écoute Robespierre, ou écoute le petit citoyen, tu fais partie d'eux, il faut que tu viennes. Et ce 27 juillet 93, Robespierre va céder et va rentrer dans le comité de salut public. Qu'est-ce qui s'est donc passé? On y va. Je sens que c'est une mois amélioré. Mais j'ai une idée, je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais j'ai une idée. Le 13 juillet, il avait refusé le 10, hein, le 13 juillet, Marat a été assassiné. Et vous savez dans quelles conditions assez affreuses. Cette Charlotte Corday, que l'on ne sait pas si pour une héroïne, c'est une fille qui a utilisé la bonne volonté, la générosité de Marat pour s'approcher de lui. Elle lui a fait remettre un petit papier disant, je sais qu'il suffit d'être malheureux pour que vous accordiez audience. Il était dans son bain parce qu'il est surcouvert d'ulcères. Alors elle arrive toute souriante puisque elle a dit qu'elle est très malheureuse et immédiatement elle sort ce poignard et comme il est tout nu, elle lui enfonce évidemment le poignard dans le cœur. Elle a bien étudié la question. Bon. Alors Robespierre s'est dit, ça c'est une mort intéressante. Robespierre, je probablement dans un an ou deux, peut-être avant, mourir bêtement dans mon lit. Qu'est-ce que Marat? L'assassinat de Marat, mais ça sert à la République. Marat est devenu un martyr de la République. Eh bien moi, j'ai accepté. Je suis convaincu que les poignards me menacent aussi, il va le dire, le 14 juillet, il le dit. Convaincu que les poignards me visent moi aussi, j'accepte. Pratiquement, c'est la Robespierre qui se saute cible, qui sait qu'il va tout risquer, et bien c'est d'accord. Alors voilà, Robespierre, comme dit Saint Philippe, nous sommes le 27 juillet 93, il va tomber le 27 juillet 94, alors vous avez calculé, il y a exactement un an et un jour, parce qu'on va le jour le lendemain 28, il a un an et un jour devant lui pour travailler. Eh bien, il va travailler. Je vous assure qu'il ne va pas plaindre sa peine, comme on dit, il va, si je puis dire, en mettre un coup. La situation militaire est donc très grave, comme vous avez vu. C'est bien lui qui avait été hostile à l'idée de la guerre, dit, puisque c'est la guerre, il faut la gagner. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire décider une mobilisation générale, au mois d'août, on appelle ça la levée en masse, avec interdiction de remplacement, parce que dans le temps, ça s'arrangeait toujours avec les gens considérables. Il avait dit qu'un riche qui serait mobilisé pourrait accepter de ne pas y aller en payant à sa place un pauvre, ce qui était monstrueux. Et bien, Robespierre décide qu'il n'y aura plus de remplacement militaire. Et puis, il a décidé aussi qu'il y aura un amalgame maintenant, c'est-à-dire que dans l'armée française, il y avait un certain désordre entre les vieux soldats de la ligne, qui étaient en habit blanc, et les nouveaux volontaires, qui étaient en habit bleu. Et les habits bleus avaient des avantages, c'est vrai, ils avaient une solde un peu supérieure, et ils avaient le droit d'aller à leurs officiers. Alors Robespierre a fait décider que maintenant tout le monde porterait l'uniforme bleu et que les avantages donnés aux volontaires sont accordés aux gens de l'année. L'unité révolutionnaire, l'unité militaire est retrouvée. Et puis c'est vous qui va faire autre chose, qu'on n'avait jamais osé faire et que je crois qu'on ne reproduira guère. D'habitude, quand il y a un échec militaire, regarde, c'est la troupe, hein, c'est les soldats, ils ont manqué de courage. Alors Robespierre en a assez de voir que c'est toujours le soldat accusé, il dit, mais c'est responsable, puis même, les généraux, on pourrait tout de même agir contre eux. Ben, figurez-vous qu'il va faire des fournées, vous entendez, des fournées de généraux qui vont passer à la guillotine. Ça ne se reverra plus jamais. J'ai envie d'ouvrir ici une très rapide parenthèse, qui est récente, hein, c'est du 26 mai 1940. Vous savez, puis que Pétain a été appelé au pouvoir le 16 mai 40, et puis il y a eu le désastre que vous savez. Et Pandrino, qui est président du Conseil, avait dit qu'il avait l'intention de prononcer des sanctions contre les généraux qui avaient mal organisé les défenses devant Verdun et qui avaient permis de progresser davantagement. Il y en avait un qui est parti à Montpellier, et c'était un sujet. Et bien Pétain lui écrit le 26 mai 40, une note que je connais, qui a été peu reproduite, une lettre horrible, où Pétain, ministre de la guerre, annonce à Pandrino, je le dis, je suis plus avec vous, si vous touchez à mes généraux, on ne touche pas aux généraux, je suis défendu. Et bien Robespierre, il touche. Et même, il va faire une circulaire avec Saint-Just, que j'aime beaucoup, qui est peu connue et que voici. L'insubordination des généraux est la pire dans une république. Dans un état libre, c'est le pouvoir militaire qui doit être le plus astreint. Ben, il a raison, parce que si vous regardez ce qui se passe, parfois, en Amérique du Sud ou en Afrique, il y a toujours un coup d'état, hein. Ces coups d'état sont faits par qui? Mais toujours par l'armée! Parce que les dirigeants de l'armée sont les gens qui ont la puissance entre les mains. Surtout sur les tanks. Alors quand on a les tanks, on peut y aller. Alors Robespierre se méfie et dit l'insubordination des généraux est la pire. Donc, vous savez, ça va réussir. Ça va réussir. Pour nous prendre des victoires, vont se produire, on ne s'attendait pas. Il y aura la victoire de Hontefeux, qui va délivrer Dunkerque, et la victoire de Bretigny, qui va délivrer Maubeuge. La finale a commencé, parce que Robespierre avait accepté, en septembre, des choses qui lui paraissaient incertaines, mais enfin, il avait pensé, sous la contrainte de la population, il avait pensé qu'il fallait le faire. Il avait fait entrer une commission de salut public, deux républicains très affirmés, c'était Collot d'Herbois et c'était Billaud-Varenne, il allait accepter surtout le maximum. De quoi s'agissait-il? Ben, le maximum des denrées, on ne paierait pas au-delà de temps. Et il avait fait ça d'une manière intelligente, et c'est la première fois qu'on s'occupait un peu sérieusement des pauvres gens. On avait décidé, grâce à Robespierre, qu'il y aurait une augmentation du prix des denrées et une augmentation des salaires. Le prix des denrées pouvait être augmenté d'un tiers, vous m'entendez, un tiers par rapport à 1790, mais les salaires devaient être augmentés de la moitié, par conséquent, avantage donné à la petite plèbe. Eh bien, ça a bien réussi, parce que peu à peu, on s'apercevait que l'assignat reprenait. L'assignat était tombé très bas, il avait perdu 60%, il va remonter, il va atteindre 35%, c'est-à-dire, pour avoir 75 francs en numéraire, il faut seulement donner 100 francs en assignat, et c'était possible. La chose la plus saisissante, c'est un document qui nous est parvenu de Mallet Dupont, dont je vous ai déjà parlé. Mallet Dupont, c'est un jeune voix qui s'est mis au service des princes. Les princes, c'est le futur Charles X, le futur Louis X, au service de la cour de Vienne. Et il envoie à la cour de Vienne, ce monsieur Mallet Dupont, une note saisissante. Où il dit, vous avez vu, hein, on a eu un succès, on scout, avec qui on s'est fait voir, pourquoi? Parce que nous ne disposons, nous, mais la bonne cause, quoi. Nous ne disposons, je le dis, que de soldats matériels, c'est-à-dire les mercenaires, qui sont indifférents à la cause qu'ils soutiennent. Tandis que les armées républicaines, ce sont des gens pleins d'enthousiasme, des gens qui y croient, quoi, des gens qui en veulent. Et même, figurez-vous que M. Pitt, en Angleterre, va parler des soldats de Robespierre. Vous imaginez les allusions que ça va produire autour de lui. Ce ne sont pas les soldats de Robespierre, ce sont les soldats de la République. Robespierre a de l'ascendant, il a du prestige, mais il est très loin d'être tout puissant. Oh non, il ne vise pas du tout à l'agitation. Et même l'idée que Robespierre a été tout puissant au comité de salut public, c'est une idée fausse. Je vais vous en donner deux preuves. Il n'aurait pas voulu qu'Elisabeth, c'est-à-dire la sœur du roi, la grosse Babel, comme disait Hébert, passât à la guillotine. Ben, il a beau essayer de s'y opposer, on fera passer Babel à la guillotine. Deuxièmement, en décembre, Robespierre essaye d'établir des comités de clémence ou comités de justice parce qu'il a le sentiment que parmi les quelques 100 000, 200 000 suspects, il y en a qui sont là injustement et il voudrait qu'on examine les choses un par un. Comme quand le roi fait ça très mal, le 26 décembre, Robespierre retire la proposition du 20 décembre. Donc, Robespierre n'est pas tout puissant sans offre. En fait, ça ne marche pas trop mal pour lui quand soudain, se produit en octobre-novembre 1993 quelque chose de, pour lui, tout à fait inattendu. C'est ce qu'on appelle la campagne de déchristianisation. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a un certain nombre de gens qui avaient une arrière-pensée quand ils sont entrés dans la révolution. Des gens comme Mirabeau, qui disait « La révolution n'aura de son vrai sens que si elle déchristianise la France ». Mirabeau se déclarait personnellement athée avec délice, mais le marquis de Sade, qui lui est, c'est que vous savez dire, un marquis, il est mieux, moi je suis athée avec fanatisme. Il faut savoir que les Girondins étaient des gens parfaitement déterminés à faire disparaître le culte. Même M. Isnard, dont j'ai déjà cité le 25 mai, une phrase terrible contre Paris, Isnard disait, il faut accélérer les convulsions trop longues de l'agonie de la superstition. Superstition, on sait ce que ça veut dire. Tous ces gens-là appartiennent à l'esprit de l'encyclopédie. Et ce n'est pas moi qui parle, c'est Jaurès. Jaurès, de sa histoire socialiste de la Révolution, dit, le fond de la pensée de l'encyclopédie, c'était de éradiquer, je vais arracher les racines, hein, éradiquer le socialisme. C'est ce qu'ils veulent faire. Et bien, c'est aujourd'hui évident qu'il y a des gens autour de Weber et autour de beaucoup d'autres, et autour des Girondins, qui veulent effectivement faire disparaître le socialisme. C'est M. Soboul, qui est mort maintenant, qui a été le successeur de Mathieu à la Sorbonne, qui était marxiste, et qui a fait une thèse très remarquable intitulée « Les sans-culottes parisiens de l'an 2 ». M. Soboul a beau être marxiste et athée personnellement, il a insisté dans sa thèse sur le fait « Je me trouvais dans aucun papier des réunions populaires ou des assemblées, oui, populaires, aucun texte prouvant qu'on avait l'intention de se jeter contre le christianisme. Tout ça est venu d'un milieu bourgeois. » Et voici des noms. C'est Marie-Joseph Chénier, d'une part, c'est Anna Karsis-Klotz, qui était ce banquier allemand qui avait 100 000 francs de rente, c'est aussi Bernard Bourdon, qui était un homme qui était fort aisé, c'est du côté de cette bourgeoisie opulente qui est partie du mouvement de christianisation. Ça a commencé comment? Ça a commencé avec Marie-Joseph Chénier qui décide de faire transformer le calendrier. Plus de calendrier ancien, parce qu'il y a des fêtes religieuses qui n'ont plus de sens, parce qu'il y a des noms qui ne signifient rien, plus de repos tous les 10 jours, parce qu'il faut que les gens travaillent un peu davantage. On appellera ça, pas les semaines, ce sera les décades, et il n'y a pas plus de dimanche, mais pas un décadou. Et puis, quand on lui demande pourquoi vous voulez ça, c'est l'évêque Grégoire qui est un républicain. L'évêque lui demande, mais enfin, pourquoi? Pour supprimer le dimanche, dit carrément. Pour déshabituer les gens d'aller à la messe. Bon, ça, Robespierre était contre, mais il va voter tout de même, le calendrier républicain. Et puis voilà que le 7 novembre, je dis quelque chose de plus, visité dans la nuit par Léonard Bourdon et cet anarchiste Sosse, l'évêque constitutionnel de Paris, qui s'appelait Gobel, le 7 novembre, va se dépressiver, il dit c'est celui, c'est du curé, je suis plus et tout, en même temps que tous ces divers. On ne sait pas à quoi il a cédé, il y a une menace de défaite contre lui, qui verrait s'il se dépressait. Et les dépressivisations vont se multiplier. Ça, c'est le 7 novembre. Le 10 novembre, brusquement, la commune a décidé que l'église Notre-Dame de Paris n'était plus une église et que ce sera le temple de la raison. Et c'est incorporé, hein, la convention tout entière va se déplacer pour aller assister à la fête de la raison dans l'ancienne cathédrale qui n'est plus maintenant Notre-Dame de Paris, qui est le temple de la raison. Il y a une commune de Saint-Noël qui s'appelle Ménesti, qui décide de fermeture délibérée définitive de son église. Monsieur Barrère en parle à la commune de la convention, il dit mais c'est très bien, et je vais faire une circulaire à toutes les communes de France, ils disent qu'ils ont le droit d'inviter la commune de Ménesti. Et Cambon qui est le spécialiste des questions financières, Cambon qui déteste Robespierre, Cambon qui avait déjà demandé en 92 que l'on annule les subventions au clergé, et pourtant, quand on leur avait pris tous leurs biens, c'était naturel que l'État les entretienne, Cambon avait demandé la suppression, vraiment la suppression, du budget ecclésiastique. Et maintenant, voilà qu'ils disent, on va fermer toutes les églises de Paris, on va les désaffecter entièrement, et on va les remettre aux habitants comme annexe. Alors, le 21 novembre, tout à coup, au Jacobin, Robespierre intervient pour un stop. Il dit, c'est pas possible. Au nom du comité de la République, je déclare que la liberté du culte, c'est une chose avec laquelle je tiens profondément. Et pour qu'on ne tombe pas sur sa conscience et sa pensée, il dit, vous savez, j'ai toujours été un assez catholique. Quand j'étais étudiant, j'ai cessé de pratiquer. Et j'ai beaucoup de griefs à faire aux catholiques. Mais je ne veux pas que sous prétexte de combattre les excès de la superstition, les gens scapulaires, comme il dit, je ne veux pas qu'on établisse le règne de l'athéisme. Il va aller encore plus loin, puisque quelques jours plus tard, le 28, parlant cette fois non plus aux Jacobins, mais à la Convention, il va dire, je n'accepterai jamais que l'on oblige les gens à cesser de croire en Dieu. Liberté de conscience avant tout. C'était assez courageux parce que vous savez qu'il était déjà par pas mal de gens, et qu'il avait déjà donné des signes inquiétants. Pensez donc qu'en décembre, je crois, en décembre 92, il avait fait hôter de la salle des Jacobins le buste de Helvétius. Ça vous dit peut-être plus rien, Helvétius. Helvétius, c'était l'homme qui avait écrit de l'esprit pour indiquer que tout est matériel, c'est matérialiste, que l'esprit est une naïveté et une inexistence. Et Helvétius et l'anesthésie étaient les deux théoriciens du matérialisme. Et Robespierre avait expliqué, mais vous savez, rappelez-vous ce qu'était Helvétius. C'était un fermier général. Vous savez comment s'enrichissaient les familles généraux. S'enrichissaient par le voile, pratiquement. Eh bien, figurez-vous, soyez bien convaincus, disait Robespierre, que si Helvétius vivait de nos jours, il ne serait pas avec nous, révolutionnaire, il serait contre nous. Et il en avait une bonne preuve, c'est que l'abbé Rénal, l'ex-abbé Rénal, qui en 1776, je crois, avait été entouré de gloire par l'encyclopédie, parce qu'il avait publié un texte qui s'appelle Histoire philosophique des deux mondes, Voltaire l'avait porté au lieu. L'abbé Rénal avait écrit un texte très violent contre la Révolution pour dire que tout ça était des absurdités. Alors Robespierre dit, mais vous voyez bien, les héritiers d'encyclopédie sont des juifs contre nous. Et il a tellement raison, et je vais souligner ça devant vous parce que c'est très important, un monsieur comme Gaxot, qui a fait en 1929 un livre contre la Révolution et qui a eu beaucoup de succès. Gaxot a osé écrire, les encyclopédistes c'était des égalitaires. Alors ils sont bien. Parce qu'il faut savoir ce que pensait Voltaire, il l'a dit, dans son essai sur les mœurs, de la manière la plus limpide. Robespierre dit, un pays bien organisé, je vais doucement parce qu'il faut retenir ça, hein, un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne. Ben, c'est une morale d'entretenu, quoi. Et il faut savoir aussi que Diderot, qui rédigera lui-même l'article représentant son encyclopédie, dira les seuls représentants concevables, sont des camarades. Donc, Diderot, le révolutionnaire Diderot, est en réalité un partisan des suffrages sans citer. Robespierre le sait très bien, il veut qu'on le sache, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le savoir parce qu'ils sont des fanatiques de ce qu'on appelle les Lumières. Ces fanatiques des Lumières ont repéré Robespierre plus longtemps. Il y a Gadet, par exemple, Gadet qui était un Girondin, qui va attaquer Robespierre parce que Robespierre a parlé du mot Providence. Et lui dit, je ne sais pas ce que vous voulez dire, le mot Providence n'a aucun sens. Et puis il y a mieux, il y a Condorcet, Condorcet qui est un ami personnel de Voltaire, qui dans sa chronique de Paris le 9 novembre 82, va dire, je l'ai compris Robespierre, j'ai vu qui c'était. Robespierre n'est et ne sera jamais qu'un prêtre. Et puis vous avez dit encore, vous avez le 3 janvier 93, Jean Sommier, qui était un des Girondins de base, puisqu'il est vraiment bordelais, qui dit, la liberté a aussi ses tartuffes, on les reconnaît à leur haine pour les muets. Non, il n'a pas de haine pour les muets, mais Robespierre est absolument décidé à maintenir la liberté de conscience. Et il va intimider les gens, hein. Un type comme Hébert ou comme Chaubet, qui allait très loin du côté de l'athéisme, bon, faire machine arrière. Il a devant lui, ce pauvre Robespierre qui croyait qu'avec les Girondins, on avait éliminé les factions, il a devant lui deux factions. Il y a la faction des ultras et la faction des citras. Ultras, c'est un mot que Danton a inventé lui-même. Les ultras, ce sont ceux qui sont des ultra-révolutionnaires, qui vont trop loin, qui effectivement peuvent aller jusqu'à l'anarchie. Et Robespierre n'en veut pas. Mais il ne veut pas davantage de ceux qui s'appellent plus exactement les indulgents. Les indulgents, ils sont conduits par Camille Desmoulins et son nouveau publication qui s'appelle le Vieux Cordelier, dans son Guerrière, et qui voudrait bien stopper la révolution parce qu'ils ne veulent pas une révolution qui arrive trop loin, qui arrive trop loin, et qui met en cause les frontières, c'est-à-dire la sécurité des forces. Alors Robespierre, très habilement, fait des méandres assez astucieux, jouant d'une faction contre l'autre. Et au début de février 94, il a l'impression, puis d'autre part il a peur de sa santé qui est si mauvais, il a l'impression qu'il faut aller au fond de sa pensée. Il va faire ça en deux temps. Hein. Alors le 5 février 94, il va faire un grand discours où il va expliquer ce qu'il appelle les droits de la morale dans la vie publique. Il y a un monsieur Serge Blanc qui, il y a quelques années, qui a publié un bouquin intitulé La Révolution culturelle, en 94. C'est inexact, c'est à dire à faire des choses. En réalité, ce que fait Robespierre ce jour-là, c'est d'expliquer ceci. Même si on fait de très profondes réformes de structure, on n'arrivera à rien tant qu'on n'aura pas changé le regard des hommes, sur l'emploi de la vie. Je suis un peu renseigné sur Mao. La révolution culturelle a été lamentable. Mon fils, qui était à ce moment-là attaché culturel à Pékin, m'a donné des détails très précis sur ce qu'avait voulu Mao. C'était très noble au départ, pas très mal tourné, je vous le dis, mais très noble. Et Mao disait, je ne voudrais pas qu'en Chine, on fasse ce qui s'est passé en Russie depuis tant d'années. Il dit ça en 1966, hein. Il y a une langue de bois en Russie, il y a une langue de nature, je veux pas ça. Et il va lancer les petits jeunes gens, vous savez, les écoliers, qui l'appellent tous les petits gardes rouges, contre les états-majors, en disant, il faut qu'on retrouve le premier souffle de la révolution. Il faut pas laisser une révolution s'enfiler. Il faut retrouver une âme commune. Et il va dire, lui qui ignorait complètement le christianisme, il va dire, il faut une naissance nouvelle. Parce que j'ai renoncé ça, pour Robespierre, j'ai de lire le 5 février. Et j'ai recopié ici l'essentiel de cette affirmation. Il dit, nous voulons un ordre de choses où les mauvaises passions seront dominées, où la morale sera substituée à l'égoïsme, les principes substitués aux usages, le devoir aux bienséances, la fierté à l'insolence, la grandeur d'âme à la vanité, des braves gens à la bonne compagnie, et la famille est comme ça, je veux une cité où toutes les âmes s'agrandiront. Et il ajoutait ce même jour qu'il fallait respecter la vertu. Oh, je sais bien les sourires que ce mot peut provoquer. Ça fait un mot un peu fané, on n'ose presque plus le prononcer. Mais à diverses reprises, on va dire c'est exprimé sous ce qui n'est pas sous le mot vertu. La vertu pour ma dignité, c'est la générosité, c'est la solidarité, c'est la grandeur d'âme, c'est la magnanimité, disait-il. Et ce qu'il faut, si on veut espérer que la révolution réussisse, il faut inspirer aux gens le sentiment de la générosité fraternelle. Il faut leur dire que le but de la vie n'est pas simplement une réussite personnelle. Il faut leur faire espérer quelque chose de collectif. Après avoir parlé de vertu, il a parlé de terreur. Et c'est vrai. Et évidemment, en septembre, j'en parlais, il y avait des mouvements révolutionnaires. En septembre, un abbé constitutionnel a dit qu'il faut mettre la terreur à l'ordre du jour. Mais quoi la terreur? Quoi la tribunal révolutionnaire depuis qui existe-t-il? Le tribunal révolutionnaire existe depuis le 10 mars, ça pourrait être. Et qui l'a inventé? C'est Danton. Danton se trouvait à ce moment-là une situation dangereuse. Alors pour se blanchir, il avait inventé de faire du rouge et il avait demandé la création du tribunal révolutionnaire. Après avoir parlé de vertu, il a parlé de terreur. Et c'est vrai. Ça y est, en septembre, j'en parlais, il y avait eu des mouvements révolutionnaires. En septembre, un abbé constitutionnel, il dit qu'il faut mettre la terreur à l'ordre du jour. Mais quoi, la fureur? Quoi, le tribunal révolutionnaire depuis qui existe-t-il? Le tribunal révolutionnaire existe depuis le 10 mars 1913. Et qui l'a inventé? C'est Danton. Danton se trouvait à ce moment-là une situation dangereuse. Alors, pour se blanchir, il avait inventé de faire du rouge et il avait demandé la création d'un tribunal révolutionnaire. Et bien, Danton, maintenant, parce qu'il a aussi un peu peur de sa situation, quand on dit, oui, allez-y, la fureur, il faut même une tête par jour. Ben, c'est vrai. Nous sommes confrontés à ce paysage tragique, c'est vrai. Et vous vous doutez bien que je ne suis pas favorable. Je trouve que Robespierre, là, dévie, pas mal. Qu'est-ce qu'il fait? À quoi cède-t-il? Parce que vous savez, c'est le Saint-Just qui lui souffle et qui lui dit, mais vous savez, il y a des tas de gens dont on n'obtiendra jamais la bonne volonté. Alors, si on obtient pas la bonne volonté, il faut procéder par l'effroi. Il faut intimider ceux qui veulent détruire la révolution. Ça ira très loin. Je dois dire que Robespierre n'est pas sanguinaire, puisque même, il va essayer de s'opposer, je vous l'ai dit, à la mort de Babet, et que celui qui va, le 3 octobre, sauver la vie à 61 parlementaires que l'on avait arrêtés, et que Amar, il est du comité secrétaire général, voulait pousser à la guillotine, parce que Robespierre dit non. Ces gens ont simplement été des complices, plus ou moins avoués, des Girondins, mais je demande qu'on les laisse en prison et qu'on ne porte pas atteinte à leur vie. Reste Robespierre est couvert de sang, c'est parfaitement vrai. Mais reste aussi d'un homme qui était un ennemi de la Révolution, et qui s'appelait Joseph de Metz, dans ses considérations sur la France, se posera ouvertement la question. Et se dira, si on n'avait pas conduit la politique française avec cette volonté de terreur, je me demande bien, je disais, l'ennemi de la Révolution, si la France était sauvée. Point. Alors Robespierre, qui est assez content de ce qui se produit, voit qu'on l'écoute, du moins partiellement. Il est tombé malade au lendemain de son 5 février. Ça va durer un mois pendant lequel il est chez lui. Et Saint-Just va profiter de cette maladie pour faire ce que Robespierre n'osait pas faire, c'est-à-dire décider. Décider par la guillotine les deux factions. La faction des Hébertistes, c'est-à-dire les Ultras, et la faction des Indivisants, c'est-à-dire la faction Danton. Les Hébertistes vont passer à la guillotine à la mi-mars, et le 5 avril, le 5 avril 1994, Danton lui-même va avoir la tête coupée. Robespierre suit toujours son idée. Et il va faire son deuxième temps, le deuxième temps où il explique le fond de sa pensée, et c'est son très fameux discours du 7 mai plus exactement, du 18 Floréal, où carrément Robespierre va aller jusqu'à mettre en cause l'encyclopédie. Ce 18 Floréal, Robespierre va aller très loin, puisqu'il va toucher ce qu'on pourrait appeler l'arche sainte, parce que pour un certain nombre de gens, l'encyclopédie c'était intouchable. Et il va dire, d'abord le titre de son rapport c'est de la nécessité de, enfin, sur le rapport des vies religieuses avec les principes révolutionnaires. Et il va dire, leur sept encyclopédies, c'est le mot qui l'emploie, leur sept encyclopédies, prononçait quelquefois des déclamations contre les despotes, et les encyclopédies s'étaient pensionnées par les despotes. En effet, Voltaire était pensionné à la fois par Lucien et par Frédéric II, et Diderot était pensionné, comme vous savez, en 1802. Il faisait, c'est habile, faisait tantôt des livres contre sa cour, et tantôt des dédicaces au roi, des discours pour les courtisans, des madrigaux pour les courtisanes. Et là, beaucoup plus loin, il va dire, enfin, voulez-vous réfléchir avec moi à la morale, à ce qui sort de Candide. Candide, le fameux petit texte, c'est-à-dire très bien écrit, très habile de Voltaire. Et ben voilà, disait-il, et c'est tout à fait exact. C'est une philosophie qui érige l'égoïsme en système, qui regarde la société comme une guerre de ruse, le succès comme la rage du juste et de l'injuste, le monde comme le patrimoine des chrétiens à droite. Et là, je voyez-vous ça, c'est de l'athéisme. Et vous dites qu'un peuple religieux ne peut pas être un peuple républicain, je vous dis précisément le contraire. Regardez bien le petit peuple est encore croyant même en certaines superstitions que moi je n'accepte pas. Mais il croit en Dieu. Tandis que c'était la haute classe, c'était les riches qui étaient des athées. Par conséquent, j'appelle l'athéisme une marque d'aristocratisme. Et pourquoi ne pas croire en Dieu, puisque c'est un tel secours pour l'âme profonde, puisque c'est un contact avec une réalité, puisque c'est l'idée de Dieu qui nous donne un sens à la vie, et tout ce qui demande Dieu, c'est pas les prières, c'est pas les hosannas, c'est de faire sa volonté, et sa volonté sur la justice. Seulement voilà, ce même jour, Jésus Forêt, il va aller beaucoup trop loin, à mon sens, et il va faire voter par une convention qui est dominée parce qu'elle a peur de lui, il va faire voter ce fameux article que vous savez, le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Et bien je ne marche pas, et j'aurais non plus ne marche pas. Parce que quoi? Ben c'est une religion d'État. L'État n'a pas occupé les consciences. Robespierre, qui vient de dire qu'il est pour la liberté de conscience, semble vouloir maintenant imposer, ou presque imposer, une certaine vue métaphysique, ça n'est pas le rôle de l'État. Et là, Robespierre a fait, à mon avis, une profonde erreur, mais qui correspondait à son tempérament. Profond, il se dit, il faut dire ça parce que c'est le salut humain même, le salut humain de cette collectivité pour laquelle je me suis dévoué. Alors on va préparer la grande fête qui sera la fête du 8 juin 1994, qui est la fête de l'être suprême, et dont je vais vous dire deux mots. Il est traditionnellement sourire en disant c'est une blague, vous savez, c'est une chose qui était organisée par David, c'est devenu grandiose à la cause de la grandeur, c'est pas vrai. J'ai vu un rapport là-dessus qui était très émouvant, il y a du petit monsieur qui avait 14 ans, c'est bien facilement qu'il nous peut-être. Mais il en est resté bouleversé cette journée. Il est vrai que le siècle, si vous voulez, était pour Robespierre, puisque c'était une journée splendide. Ce 8 juin, c'était magnifique, le soleil était radieux, il y avait une douce chaleur, il y avait quelque chose dans l'air qui était comme un bonheur prétendu. La commune avait donné, par ordre du reste, des fleurs et des objets divers à la population pour qu'elle fasse des guirlandes. Les barques circulaient sur la Seine qui étaient toutes décorées. Et puis on avait organisé aussi tous les quarts d'heure des trompettes de cavalerie qui sonnaient dans les carrefours. Il y avait des volées de coups de canon, ce n'était pas cette fois des canons révolutionnaires, mais il y avait des canons en l'honneur de Dieu. Et puis il y avait cette édition assez saisissante. On avait dit aussi que tous les quarts d'heure, toutes les cloches de Paris, y compris le bourdon de Notre-Dame, sonneraient à toute volée. Il laissait donner à tous les gens le sentiment d'une espèce de fête de Dieu. Oui, c'était pas la fête de Dieu, mais c'était en secret. Vous savez, beaucoup de gens savaient, mais Robespierre n'avait pas dit, sans en secret, c'est 8 juin, c'est-à-dire juste, je regarde, c'est 8 juin, qu'est-ce que c'était dans l'ancien calendrier? Ben, c'est la fête de la Pentecôte. Robespierre se disait de même sur la Pentecôte, soi-disant, selon la légende, les membres de feu sont venus sur la scène des apôtres. Je le vois. Essayez de dire à tout le monde, à travers la France, à travers Paris, d'abord, dire à tout le monde que cette connaissance de Dieu nous aidera à faire la République. Ça les fait, ce qui me touche beaucoup dans ce discours de Robespierre, c'était la première fois, à mon sens, la première fois, qu'un gouvernant parlait de Dieu au peuple pour autre chose que pour le duper et pour la servir. C'était pour le servir, au contraire. Comment Robespierre, il s'est content, le vieil du pays était méconnaissable. C'est Robespierre qui avait l'habitude d'assez palot et avec fleurs foncées, avec des tics nerveux dans le cou et dans les épaules. Sur là, il était transfiguré, il marchait en tête de la convention, il se trouvait par hasard avec le président, c'est Arquinzette. Il avait un énorme bouquet de fleurs tricolores que lui avait donné Éléonore Duplay, une des filles de Duplay, qui était amoureuse en vain de lui. Et il était transfiguré, il avait un sourire épanoui sur le visage. Ce sourire va brusquement disparaître, à peine a-t-il prononcé son discours au champ de Mars, parce que des hurlements, vous avez entendu bien, des hurlements partent de la convention. On avait obligé la convention incorporée, comme quand vous êtes allé à Notre-Dame de Paris, à assister à la fête de l'être suprême. Il piétinait tout ça derrière. Et il y avait des quantités de gens, en particulier dans la plaine, qui étaient des Voltairiens, et qui étaient agacés par ce zéro mission. Alors il était parti contre lui. Mais Vassifération, vous savez, touché, selon sera plus tard. Mais je lui ai dit en face que ce Robespierre, on en avait parti la tête. Il voulait se faire bon Dieu. Il voulait nous ramener son bon Dieu. Mais lui-même voulait se présenter comme le nouveau Messie. Et puis on avait crié aussi, ah, tu sais, Robespierre, la Roche Tarpeyum, il n'est pas loin du capital. On t'aura bientôt. Ça avait été un tel coup pour lui de sentir cette violence qu'il était revenu tout triste, tout à fait transfiguré, avec le sentiment que c'était raté. Et deux jours plus tard, le voilà qui va organiser une loi terrible, la loi de l'Inde de Prairial, qui simplifie d'une manière vraiment excessive et presque monstrueuse les procédures de juridiction. Il y a plus d'un témoin maintenant pour qu'on ait quelqu'un, une simple contrôle d'identité. Les preuves matérielles ne sont pas nécessaires, les preuves morales suffiront. Ça, il y avait de quoi tuer tout le monde. Nous savons très bien ce qu'il voulait faire. Il voulait intimider 4 ou 5 personnages, et particulièrement Fouché. Fouché qui se conduisait tellement mal, il avait repris Lyon, pendant lui, il faisait des représailles monstrueuses, mais Fouché avait passé tour des Kazakhs et maintenant il persécutait les républicains ultra. Alors Robespierre voudrait utiliser prudemment cette fois de Prairial, mais c'est un argument qu'il va donner contre lui. Il va nous dire, le 26 juillet, lorsqu'il reprendra la parole pour la première fois, il va nous dire, j'ai signé mon arrêt de mort, quoi. J'ai signé mon arrêt de mort avec la fête de l'être suprême. J'ai compris qu'à partir de ce jour-là, on était décidé à m'abattre. Il a parfaitement fait, parce qu'une conjuration va se former contre lui. Quelle conjuration? Eh bien, il y a d'abord les représentants en mission rappelés. Vous savez, ces représentants en mission, ils avaient tout pouvoir, et quelquefois ils sont des éprénats. Talien, par exemple, Talien à Bordeaux, il arrêtait des gens puissants, puis il les convoquait, il disait, écoutez, je vous relâche, mais à condition de vous mettre sur ma table une langue, je ne vais pas si bien garder. Il était poussé par sa maîtresse Thérèse à Cadarus, et c'était très David, et il a fait une fortune. Pour les carriers, vous savez, carriers à Nantes, avec une loyale de Nantes, ça avait paraissé très beau. Et puis il y avait un type comme Dumont, c'est André Dumont, enfin, Dumont, qui était présent en mission dans le Nord, et qui avait annoncé, j'ai fait une fonction de toutes les croix, j'ai fait disparaître tous les emblèmes religieux, et bientôt je ferai disparaître aussi ces animaux noirs, appelés aux prêtres, par des serges destinés qu'ils allaient un peu fort. Alors on avait rappelé un certain nombre de ces représentants religieux, et ils étaient furieux. Deuxièmement, et attention, ça c'est du Buonarroti. Buonarroti, c'est un député de la Corse, un national de Corse, qui était d'abord au début contre Robespierre, puis qui passera du côté de Babeuf, vous savez, Babeuf 95. Il y a une note laissée par Buonarroti qui dit, il y a eu contre Robespierre une conjuration à la fois des pillards, c'est-à-dire des voleurs, quoi, et des volontariens. C'est vrai, il y a des volontariens, la preuve. C'est que quelques jours après le 8 juin, c'est-à-dire le 15 juin, un membre du comité général, qui s'appelle Zadier, va monter à la tribune de la Convention. Il obtiendra un très grand succès parce qu'il raconte une histoire concernant une folle de la rue de la Contessoire, qui s'appelle Catherine Solo. Et il dit qu'elle se fait appeler la mère de Dieu et annonce qu'il y a un nouveau métier, ça il a plus de 60 ans, mais il dit quand même qu'elle est la mère de Dieu et que viendra un nouveau métier. Et il fait rire tout le monde et avec une arrière-pensée parce qu'il sait que dans les disciples de cette espèce de demi-folle qui est une brave fille, mais un peu piquée, il y a une parente des Duplais. Les Duplais, c'est là où Robespierre habite. Il sait aussi qu'un des adjoints de cette catégorie s'appelle le Don Juan, c'est un ancien bénédictin qui est défratérisé. Et c'est Robespierre qui a fait donner un certificat de civisme à Don Juan. Par conséquent, lorsque Zadier dit la mère de Dieu annonce un nouveau Messie, on fait courir à Robage dans les rangs de la plaine, enfin de l'assemblée, qui s'appelle le ventre ou le marais, comme vous voulez, la plaine, le ventre, oui. On leur fait courir le bruit, vous savez, la mère de Dieu, elle annonce la venue du nouveau Messie, qui est Robespierre. Et Robespierre sait très bien ce qui se passe entre lui. Il en est découragé. Vous savez, il va se retirer, on ne le sait pas assez, il va se retirer pratiquement du gouvernement. On n'a jamais fixé exactement, on n'a pas pu fixer la date, mais le 27 février, quand on décrète l'arrestation, c'est Barras qui va dire, mais il y a quatre décades qui n'ont pas paru au gouvernement. Il dura 6 semaines, parce qu'il garde l'ensemble comme il est. 6 semaines, 4 décades, ça fait environ 40 jours. Par conséquent, c'est presque tout de suite après l'incident du 15 juin, l'incident d'Adier du 15 juin de la mère de Dieu, qui décide de ne plus faire partie du gouvernement. Et c'est vrai, il va passer le matin au comité république un instant, juste un instant, pour signer comme ça quelques arrêtés, hein, et puis il s'en va. Je ne veux plus participer, dit-il, à un gouvernement où je me suis rendu compte que j'étais incapable de faire le bien et incapable d'enrichir le mal. J'ai oublié de vous dire que Michelet, qui déteste Robespierre, Michelet a raconté avec une espèce d'enthousiasme l'incident d'Adier, l'incident de la mère de Dieu. Michelet a dit, on se tordait sur les bancs de la Convention. La suite encore plus belle. Rire immense, rire sacré. Enfin, Voltaire ressuscite, béni soit-tu, bon revenant. Et bien, le bon revenant a décidé de venir à bout de Robespierre et on y va. Alors, je viens de vous dire la conjuration. Premièrement, les députés rappelés. Deuxièmement, tous les Voltaires. Troisièmement, et ça, j'y tiens beaucoup parce qu'on ne le vit pas, Carnot. Lorsque je vous racontais il y a un instant qu'il a fait attention au comité de la République, deux extrémistes, qui étaient Colonel Verbois et Billot Varennes, c'était en septembre, il faut savoir que Robespierre, président ainsi, essayait de compenser deux nominations que l'on avait fait malgré lui au comité de la République, au Vadout. C'était la nomination de Carnot et de son ombre qui s'appelait Prieur de la Côte d'Or, pour le distinguer d'un prieur de la Marne qui lui était à gauche. Carnot, le fils d'un notaire, ça dit quelque chose, ça, vous savez, Carnot n'est pas un homme qui est j'envisagerais volontiers des limites au droit de la propriété comme Robespierre a eu le culot de le proposer. Et surtout, voilà que Robespierre avait dit, on ne traitera pas avec l'ennemi tant qu'il y aura un soldat étranger sur le sol de France. Depuis Fleurus, Fleurus c'était le 27 juin, depuis Fleurus, c'est une victoire remportée près des frontières de la Belgique, il n'y a plus un étranger sur le sol de France. Et Robespierre dit, allez, celle maintenant, je veux faire la paix. Ils sont tous partis. Et cette guerre nous coûte terriblement cher. Car nous les rebellions. Parce que enfin, la guerre rapporte, vous savez. Cette guerre était faite pour une guerre de radia, vous savez, qui était une Narbonne et des Girondins, prendre le bien d'Auteuil, prendre les biens des Belges et les biens de la Rhénanie. Ça marche maintenant. On a même organisé en Rhénanie ce qu'on appelle l'agence d'évacuation. Et je voudrais vous rappeler deux dépêches que j'ai sous les yeux dans la tête. Deux dépêches de Carnot. L'une s'adressait à Pichegru. Il lui dit, vous êtes en Belgique, prenez tout. Il faut vider le pays, vous m'entendez, c'est la première tout, il faut vider le pays. Et puis aux représentants du peuple qui sont dans l'armée de la Moselle, montrez à vos soldats les richesses de l'Allemagne. Et vous savez, c'est trop déjà ce que va raconter Bonaparte le 10 avril 96, lorsqu'il avait à la tête de l'armée des Alpes, et qui dit, soldats, vous êtes mal défis, vous êtes mal chauffés, et regardez les plaines de Lombardie, regardez ces villes qui sont bientôt à votre pouvoir. Pas question ni de la patrie, ni de l'honneur, rien du tout. Simplement le pillage. Et bien c'est ça la politique de Carnot. Alors quand Carnot voit un Robespierre qui dit, il faut faire la paix, il dit, surtout pas. Alors le moyen qu'on va trouver pour aller contre lui, c'est bien fait, vous savez. Jusqu'à présent, le ventre, le centre, quoi, composé de ces grands notables que vous savez, ils sont tous le gros dos. Ils ont tous considéré que le 10 août était comme une espèce de parenthèse franchise ouverte dans la révolution. Quand je vous ai dit que le 10 août était pour moi la révolution, sérieuse, la révolution pour de bon, mais c'est une idée terrifiante pour ces grands notables, pour ces gens installés, pour ces gens puissants qui sont la majorité de la convention. Ils n'osent pas bouger parce qu'ils savent, ils croient savoir, que Robespierre a derrière lui tous les faubourgs. Et que s'ils lèvent le petit doigt, les faubourgs vont refermer, comme ils ont fait, c'est vrai, le 30 mai, le juin contre la Convention, alors ils ne bougent pas. Mais l'idée admirable de Fouchet et des conjurés, c'est d'ôter, en toute la mesure du possible, à Robespierre cet appui commun, cet appui populaire. Alors ils vont faire deux choses. Ils vont s'emparer d'abord de la loi du 22 Prairial, terrible, je vous l'ai dit, cette loi presque inadmissible, qui simplifiait à l'Espagne la procédure du tribunal révolutionnaire, et ils vont rendre la guillotine folle, réellement folle. Écoutez bien les chiffres. Le 17 juin, ils vont faire passer d'un seul coup 54 personnes à la guillotine, tous revêtus de la chemise rouge, et la chemise rouge qu'ils avaient eu dire, un lambeau de serge rouge qu'on leur mettait sur les épaules, est réservée aux parricides. Et puisqu'il s'agissait de un monsieur Eiffel, un homme l'admira et une fille qui s'appelait Gilles Renaud, qui était accusé d'avoir voulu tuer Robespierre, on fera courir le bruit que Robespierre a exigé que l'on fasse tuer 54 personnes revêtues de la chemise rouge parce qu'on a songé à un acte comme ça contre lui. C'est complètement faux. Robespierre n'a rien exigé de pareil. C'est une absurdité dans la cour. Mais c'est très utile de faire croire que si la guillotine devient terrifiante, si elle a toutes sortes de têtes, et en particulier les têtes de petits gens, les têtes de plébéiens, qui sont accusés d'avoir mal parlé de la République, il paraît que tel concierge ou tel porteur d'eau a dit « Ah ben, chez le roi, on vit mieux ». J'ai dit « On va les tuer ». En disant à tout le monde « Que voulez-vous, c'est Robespierre qui le veut ». Alors je vais vous donner un chiffre. Depuis l'établissement du comité du tribunal révolutionnaire, c'est-à-dire le 10 mars 1993, jusqu'à maintenant, il y avait eu un peu plus de 1200 exécutions. Vous le suivez, un peu plus de 1200 en 15 mois. En 40 jours, il y aura plus de 1300 exécutions, plus de 1300. Une guillotine formidable, furieuse, frénétique, dont on répète, c'est Robespierre qui le veut. Or, il n'est pour rien, puisque maintenant, il ne va plus au comité de la République. Alors là, Lamartine aura une phrase admirable dans son histoire des Girondins. Je vais la citer lentement parce qu'elle va très loin. Pendant 40 jours, il le couvrir du sang qu'il versait pour le perdre. Pour ôter à Robespierre son appui populaire, je viens de vous le dire, on fait des arrestations et des exécutions de petits gens. Mais on fait mieux. Au début de Thermidor, voilà que le comité de salut public, où Robespierre ne va plus, décide un nouveau maximum. Mais attention, cette fois c'est un maximum des salaires, avec une diminution considérable des salaires. Il y avait en particulier à Paris une usine nationale, la seule, une usine d'armes qui n'était pas privée, qui était nationalisée, et on va faire tomber de 30%, vous m'entendez, de 30%, le salaire des ouvriers qui travaillent à cette usine-là. Alors, tous les autres filles, avec joie. Et c'est bien que, dans le peuple, on va commencer à dire, foutu maximum, ah, on vous répond, vous savez, c'est pas notre faute, c'est Robespierre, puisqu'on fait croire à tout le monde que ce Robespierre, il ne vient plus au pouvoir, est tout puissant. Alors ça va, on a l'impression qu'on le tient, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait, Robespierre? Puisque maintenant, bon, il va de temps en temps au Girondin, mais il ne va plus, il ne fait plus son métier. Et bien, je sais, lorsque j'ai vu des rapports de police sur lui, que, profitant de ses idées admirables, le temps est toujours splendide, il va beaucoup à la campagne. Il sort accompagné de son chien. Il avait un grand chien qui s'appelait Brunt. Et les rapports de police nous le montrent plusieurs fois, il est assis sur une prairie qui est en pente, du côté de la Seine, qui donne sur la Seine, à la corne d'un bois, dit un des textes que j'ai lu. Et là, c'est Robespierre qui réfléchit, qui médite. Est-ce que nous pouvons deviner sa vie intérieure? Mais oui, on peut. Vous savez, longtemps j'avais cru que l'être suprême, c'était quelque chose comme une abstraction d'utilité publique. C'est pas vrai. Vous savez que Pascal disait qu'il n'acceptait pas, qu'il trouvait détestable le déisme, le déisme se froidit. Moi, je suis pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Mais Robespierre aussi. Robespierre est un homme qui vit dans une ferveur dont nous ne doutions pas, et qui m'a été révélé par divers documents, par exemple. Elisabeth Duplet, qui a épousé Lebas, le conventionnel Lebas, qui est un robespierriste pur, racontera, dans un texte qu'il a publié, je crois qu'en 1811, que de fois, vous entendez, que de fois, et non pas parfois, que de fois, Robespierre me prenait par le bras et me disait, mon petit, c'est une manque de ferveur, et c'est la seule chance d'être heureux dans la vie, la ferveur. Et puis, il y a un touriste allemand qui nous a fait une vraie révélation dans un texte de 91, où ce touriste allemand, qui est venu comme ça pour s'informer, a demandé où vivait Robespierre. On lui a montré la maison de ce monsieur Duplet, qui est un artisan ébéniste. Et les gens, les voisins, ont dit à ce touriste allemand, qui l'a soigneusement noté, on est très religieux chez les Duplet, on fait la prière avant tous les repas. Et c'est Robespierre qui fait la prière. Alors, je comprends mieux pourquoi Danton éclatant de rire avait dit, Robespierre, il habite dans une jolie litière. Robespierre est un homme qui croit profondément en Dieu, un homme qui vit dans sa pensée et qui peut se retirer, quels que soient les drames de sa vie extérieure, se peut se retirer dans une espèce de zone secrète de conscience extériorité. C'est ce monde-là qu'il habite lorsque le 26 juillet 1994, il va reparaître subitement à la tribune de la Convention. Pourquoi ? Un discours qui est à la fois un défi et un testament. Il dit, c'est vrai, je me suis retiré parce que je savais que j'étais incapable de faire. Et puis j'en ai assez, dit-il, j'en ai assez de vivre dans un monde où la justice n'est qu'un mensonge, où l'intrigue triomphe toujours de la vérité. Et se tournant vers Fouché, qui est là parce qu'il sait ce que fait Fouché contre lui. Il sait que Fouché, quand il était à Nevers, a arraché tous les emblèmes religieux, a fait inscrire à la porte des cimetières, ici est le repos éternel, le sommeil éternel, où lui dit en le regardant, en était en les doigts, non Fouché, non, ce n'est pas vrai, la mort n'est pas un sommeil éternel. La mort, c'est l'entrée dans l'immortalité. Robespierre sait très bien que disant des choses pareilles, le demandant que l'on redisse profondément la structure du comité de vie, comme du comité de quartier général, il sait qu'il risque tout. Bon, et bien le soir, il recommence son discours aux Girondins, il est applaudi, et le lendemain, ce sera le 27 juillet, Saint-Just doit prendre la parole pour défendre le discours de Robespierre, et vous savez ce qui va se passer, c'est pas la peine d'insister, on coupe la parole à Saint-Just, on va décider à l'unanimité que Robespierre va être arrêté. Robespierre est en effet arrêté, il est libéré, il refuse d'aller à la commune parce qu'on lui parle de situation, il dit mais c'est pas la peine, c'est raté, c'est tout la fin du pays, vous savez, tellement peu de gens sont venus le soutenir. Il y a 48 sections dans Paris, mais il y en a à peine 20 qui ont envoyé des hommes pour le défendre. Il dit mais non, si c'est fini, c'est perdu. La convention a décidé de maintenant qu'il était dit, oh la loi, ça veut dire qu'on peut l'abattre à vue. Alors il dit mais c'est fini, quoi, c'est terminé. Alors c'est au moment où les gens qui avaient voulu, qui avaient essayé de le soutenir, se sont dispersés, il n'y a plus personne devant le lui, c'est 2h30 du matin, à ce moment-là, entre Léonard Bourdon, qui conduit une équipe de gendarmes, à la tête duquel ce commandant, c'est pas sa faute, il s'appelait Merda, et c'est là que le coup de revolver est sur le coup de pistolet. Vous savez, je comprends pas qu'on puisse encore aujourd'hui discuter pour savoir si Robespierre s'est suicidé ou si ça avait été du coup d'un coup de pistolet. Et quand regardez ce ménage, les médecins, ils ont dit là-bas, elle est entrée par la joue droite, a traversé la bouche et a fracassé la mâchoire gauche. Quand on est suicidé, c'est pas comme ça qu'on procède. C'est probablement, il a vu que tu savais que j'agis contre lui, il s'est défendu vaguement, et le coup, au lieu de l'atteindre dans le visage, l'a atteint au bas du visage. Ça doit faire une qu'il a la mâchoire cassée. Alors on le transporte dans l'antichambre du comité de salut public, ça a Robespierre aux outrages, il est étalé sur une table, il a le sang qui lui coule de la bouche, il ne peut pas parler. On a mis des feuilles de papier à côté de lui, alors il se sert ses feuilles de papier pour épancher le sang. Les chirurgiens, de 24 heures, de 2h30 à 6h, il était là à souffrir, sa mâchoire cassée. Les chirurgiens, j'ai lu le rapport, disent de lui avoir arraché quelques dents, de lui avoir enlevé quelques morceaux d'os. Il a dû beaucoup souffrir, mais nous devons dire qu'il n'a pas poussé un seul gémissement. Et il rajoutait, pendant qu'on le travaillait, il gardait obstinément les yeux au plafond. J'ai dit dans mon livre, risquant une image, que si Robespierre avait les yeux au plafond, je ne suis pas persuadé qu'il était fasciné par les moulures du plâtre. J'aurais été une pauvre à faire passer à la guillotine le lendemain. Ce sera la grande fiesta de la guillotine. Figurez-vous qu'en 2 jours, on va tuer plus de 100 personnes, tous les Robespierres, tous les gens dangereux. Et la signification du 9 Thermidor, mais qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est le triomphe des installés. C'est le triomphe des nouveaux nantis. Le deuxième temps, pour tout achever, ce sera le 18 Brumaire, quand Bonaparte détruira la République, et quand on verra un homme comme Necker dire, mais bravo Bonaparte, il n'y a plus maintenant qu'un simulacre de la République, et les propriétaires vont beaucoup gagner en force et en droit. Bravo. Robespierre est un homme qui avait pris au sérieux ce qu'elle dira, bien longtemps après lui, Peggy. Peggy dira, l'amnistie républicaine, c'est quand on se fait tuer pour la République. Robespierre est quelqu'un qui s'est fait tuer pour la République telle qu'il la concevait. Une République où toutes les femmes s'agrandiront. Et avec le 18 primaire, ce sera l'initiative de ce triomphe de l'argent qui va durer des décennies et dont je ne suis pas sûr qu'il soit aujourd'hui terminé.